السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله ومرحبا بكم en cette soirée du mercredi 17 ربيع الأول 1431 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 3 mars 2010 d'après le calendrier chrétien. En principe, aujourd'hui, inshallah ta'ala, nous devrions commencer le premier dars sur l'exégèse du Coran, sur le tafsir. Naam, le premier dars, en commençant par al-Fatiha, ensuite les petites sourates, celles que tout le monde connaît. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, qul huwallahu, et comme ça. Mais qaddara Allahu ma sha'a fa'al, aujourd'hui, yani pendant toute la journée, je n'avais pas la connexion. Naam, je ne viens de la voir, que ça fait peut-être une heure. Al-Muhim. Donc, puisque mercredi, d'habitude, on faisait Sharh Riyad Salihin une fois par 15 jours. Et l'autre semaine, c'était divers. Donc, j'ai choisi aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, de commencer un petit livre, un livret, ô combien important, écrit par l'éminent savant, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui s'appelle « Les fondements de la foi ». À la lumière du Coran et de la Sunna authentique. C'est un livre sur la Aqida, très très important pour que le croyant marche, c'est-à-dire adore Allah Ta'ala avec clairvoyance. Il l'adore avec quoi? Avec ce que Allah Ta'ala a légiféré. Et ce qu'il a légiféré, surtout, c'est dans la Aqida. Dans la Aqida, beaucoup plus important que ce qu'il y a dans la Sharia. Tout est important. Mais si on parlait de prédominance, vous savez que la Aqida est plus importante et prévaut sur toute autre matière. Bi'idnillah subhanahu wa azawajal. C'est pour ça que les plus heureux, ce sont ceux qui connaissent la Aqida mieux que les autres. Les plus heureux des croyants, ce sont ceux qui connaissent la Aqida plus que les autres. Pourquoi? Si tu te trompes dans le fiqh ou dans la salat ou dans la zakat, Allah Ta'ala est miséricordieux. Mais si tu fais des fautes ensuite pour associer Allah Ta'ala à un autre et faire des grandes fautes dans la Aqida et tu mords ainsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ne pardonne pas. Il ne pardonne pas à celui qui fait quoi? Qui fait le shirk et ne se repent pas et meurt. Sauf bien sûr s'il était vraiment, vraiment yani ignorant. Et sans oublier que l'ignorant doit demander la science. L'ignorant. S'il se détourne de la science, qu'est-ce qu'il a? Il a les péchés. Pourquoi? Parce que la quête de la science est une obligation. Et celui-là, il n'a pas cherché la science. Il a passé son temps à jouer, à plaisanter, à rire, à aller au café, à voir des films. Donc, au lieu d'apprendre quoi? Au lieu d'apprendre ce qui le mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers son paradis. Donc, je disais, ce livret est très important. Inch'Allah ta'ala, pourquoi? Regardez, il contient quoi? Dans la table des matières, c'est quoi la religion islamique? Ce sont quoi les piliers de l'islam? C'est quoi les bases de la croyance islamique? C'est quoi la foi en Allah Ta'ala le Très-Haut? C'est quoi la foi aux anges? Ensuite ça vient. C'est quoi la foi aux livres? La foi aux messagers? La foi au jugement du jugement dernier? Et enfin, la foi au destin. Chaque chapitre que je viens de citer, on va, inshallah ta'ala, dans les prochains cours, l'apprendre, inshallah ta'ala, l'expliquer avec des détails, bi'idhnillah ta'ala. On commence, inshallah ta'ala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. La religion islamique. L'islam est bien plus qu'un ensemble de croyances ou de dogmes et de pratiques culturelles qui constituent les rapports de l'homme avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, l'islam englobe tous les aspects de la vie. C'est pourquoi le mot religion, tel qu'il est perçu dans la langue française, est partiellement inadéquat à la traduction du mot arabe din. Non. On va expliquer ça. L'islam, comme vous savez, ce n'est pas seulement ce qu'il y a entre toi et Allah Ta'ala, comme quoi? Comme prière, et comme zakat, et comme siyam, et comme hajj. Comme croient beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans, et beaucoup d'ignorants. Mais l'islam, c'est plutôt un mode de vie. Non. L'islam, si tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, dans tout ce qu'il a légiféré. Tout, 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 tout. L'islam, c'est quand tu te lèves le matin, tu commences déjà par l'islam. Tu dis quoi? Au lieu de bâiller et de dire « Oh, je sais pas quoi », tu dis « Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur ». Tu as commencé par appliquer l'islam. Tu as ouvert ta journée par une adoration. « Masha'Allah alayk. Alhamdulillah, louange à Allah, alladhi ahyana qui nous a ressuscité, ba'dan amatana, après nous avoir pris nos âmes, wa ilayhi an-nushur ». Et c'est vers lui que nous allons revenir. Allah Ta'ala, quand tu dors, il t'a quoi? Il t'a pris ton âme. Et quand tu te réveilles, il t'a ressuscité. C'est pour ça que dans le paradis, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le fait de dormir. Car dormir, c'est quoi? C'est une petite mort, c'est la petite mort. C'est pour ça que quand tu te réveilles, tu dis « Alhamdoulilah qu'il m'a ressuscité, il m'a redonné la vie. Pourquoi? Car tu étais morte quand tu t'es endormie. C'est pour ça que toute personne qui s'endort ne peut pas garantir qu'elle va se réveiller. Car elle ne détient plus son âme. Elle ne détient plus son âme. Son âme est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que dans sourate Al-Kahf, Allah Ta'ala, quand il a parlé des gens qui étaient dans la caverne, qu'est-ce qu'il a dit? وَنُقَلِّبُهُمْ ذَتَ الْيَمِينِ وَذَتَ الشِّمَالِ. Il a dit, on les fait retourner sur le flanc droit et sur le flanc gauche. Pourquoi il a dit on les fait retourner? Pourquoi il n'a pas dit on les retourne? Enfin, pourquoi il n'a pas dit ils se retournent? Car quand tu dors, c'est pas toi qui te retournes. Ton âme n'est plus chez toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te commande. Donc j'ai dit, c'est quand on se réveille. Ensuite, comme ça, pendant toute la journée, tout ce qu'on fait doit être conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'on revienne le soir vers notre lit en disant Allahumma rabbi bismika wada'tu janbi وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أو بيان d'autres invocations. L'islam est la religion avec laquelle Allah Ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, le Seigneur, a parachevé les messages antécédents avec l'avènement de l'islam. Et il a complété sa religion pour ses serviteurs et les a comblés de son bienfait en agréant l'islam, n'acceptant ainsi de personne aucune autre religion. Allah Ta'ala a dit dans Sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 40, il a dit « Muhammad n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est omniscient. » Il a dit aussi dans Sourate Al-Ma'ida, la table servie, verset numéro 5, il a dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Il a dit aussi dans Sourate Ali Imran, la famille d'Imran, verset numéro 19, il a dit « Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. » Certes, la religion accepté d'Allah, c'est l'islam. Et il a dit aussi, dans Sourate Ali Imran, verset numéro 85, il a dit, et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique, il a dit, hadith rapporté par Bukhari Muslim, il a dit « Mon cas et celui des prophètes qui m'ont précédé est pareil au cas d'un homme qui a bâti une maison, l'a embellie, l'a ornée, mais il a laissé vacante la place d'une brique. Alors les gens qui viennent la visiter et font le tour, l'admirent et disent, dommage, c'est-à-dire comme elle est belle cette maison, mais dommage, pourquoi n'a-t-on pas mis cette brique, la brique qui manque? Eh bien, il a dit, que la paix soit sur lui, il a dit, eh bien, je suis cette brique, je suis le sceau des prophètes, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sceau des prophètes. Et il n'y aura aucun prophète après lui. Il y en a eu, 124 000, ou la 123 999 avant lui, mais après lui, il n'y aura aucun quoi, aucun prophète, aucun messager. Et combien c'est décevant, qu'il y ait des sectes de nos jours qui, entre parenthèses, se disent aussi musulmanes et quoi, et disent qu'il y a un autre messager après le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même sur le paltok, où on peut trouver de tout. Sur le paltok, on peut trouver de tout. Toutes les religions fausses du monde, on peut les trouver dans le paltok. Sur le paltok, il y a des gens qui disent quoi? Qui disent que le dernier prophète, ou bien le dernier messager, ce n'est pas seulement Mohammed, ce sont deux. C'est Mohammed et c'est aussi Ali ibn Abi Talib, son gendre. C'est une dawa très connue qui est prêchée par l'apostat. Je dis de lui apostat. L'apostat, Casa 13, que vous connaissez tous. À chaque fois, il change de pseudo. Il dit que le dernier messager, ce n'est pas seulement Mohammed, ce sont deux, Mohammed et Ali. On dit apostat, apparemment, car celui qui dit ça, il est vraiment sorti de l'islam. Mais c'est vraiment grave pour des gens pareils. Il dit ici, ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'humanité tout entière de prendre l'islam comme religion. Allah ta'ala a dit dans Surat al-A'raf, verset 158, ô Muhammad, c'est-à-dire il dit à Muhammad, dit, ô gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah qui est le possesseur de la royauté des cieux et de la terre. Donc, ô gens, ce n'est pas aux musulmans, ô vous tous, chrétiens, juifs, tout le monde, vous tous, je suis pour vous tous le messager d'Allah qui est le possesseur de la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Vous remarquez qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, du messager d'Allah, il a dit de lui, le prophète illettré. Tout le monde, tous ceux qui l'ont côtoyé, savent qu'il n'a jamais été à l'école, ni ne savait écrire ni lire. Pourquoi? C'est l'une des sagesses. Car s'ils savaient lire ou écrire, ils auraient dit quoi? Ils auraient dit, ce Coran, c'est toi qui l'as écrit. Et aussi, lorsqu'il va dire des choses vraiment, vraiment, que peut-être de nos jours, on n'a pas encore découvert, les choses qu'il y a dans le Coran et les choses qu'il y a dans la Sunna, que les savants viennent tout juste de découvrir les bienfaits dans la médecine, etc. Que vont dire les gens? Ils vont lui dire, bien sûr, tu as lu ça dans un autre livre. Ou bien, tu as lu ça dans la médecine. Mais celui-là, Allah Ta'ala a voulu qu'il soit vraiment quelqu'un qui n'a jamais écrit, ni n'a jamais lu. Pour leur montrer que ce que je dis, ce n'est pas de moi. C'est de la révélation. Le prochain verset qui va venir, Al-Ma'ida, verset 48. Dans l'authentique de Muslim, d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je le jure par celui qui possède l'âme de Mohammed entre ses mains, c'est-à-dire je jure par Allah, que quiconque parmi les juifs et les chrétiens entend parler de ma personne et ensuite meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, qu'il fera partie des gens de l'enfer. Hadith authentique. Donc c'est très grave, hein, pour ceux qui ont entendu parler de lui et ne veulent pas le suivre. Et disent que nous, notre prophète, c'est X ou Y. Alors qu'ils savent que cette prophète, ce prophète dont vous parlez, oui c'est vrai, c'était un prophète, mais on s'entend. Mais ensuite, ça a été abrogé. C'est-à-dire que après l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutes les autres religions qui étaient vraies et véridiques en leur temps ont été abrogées. Elles ne comptent plus. On doit suivre toujours qui ? Le dernier. Toujours le dernier qui est venu. Donc il dit ici, je répète ce qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, je jure par celui qui possède mon âme entre ses mains, l'âme de Mohammed entre ses mains, que quiconque parmi les juifs et les chrétiens entend parler de ma personne et ensuite meurt sans croire au message avec lequel j'ai été envoyé, fera partie des gens de l'enfer. J'ouvre ici juste une petite parenthèse pour dire que nous, quand on voit quelqu'un qui est mort, par exemple, sans croire au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, apparemment, c'est un mécréant, apparemment. Mais que peut-être, je dis peut-être, celui-là aura des excuses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Si maintenant cette personne a essayé et a fait tout son possible pour connaître cet islam. Mais que, il y a des gens jour et nuit, hein, comme vous devez le savoir, qui font tout leur possible pour amochir, hein, et donner une très très mauvaise et fausse image de l'islam. Et on va lui dire que ce Mohammed que tu voudrais toi connaître n'est en fait qu'un sorcier, n'est en fait qu'un voyou, n'est en fait qu'un voleur, n'est en fait qu'un, il commence à lui donner les plus mauvais qualificatifs. Jusqu'à ce que certains diront un coureur de jupons, d'autres diront un pédophile, et d'autres, a'oudou billah, que Allah Ta'ala nous préserve de cette mécréance. Celui-là, qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va dire donc celui-là, donc c'est pas un prophète, un prophète qui a tous ses défauts. Non, c'est pour ça que nous, notre but c'est quoi? C'est de faire tout notre possible pour montrer aux gens le vrai islam et qui était vraiment le messager sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature que Allah subhanahu wa ta'ala ait créée. C'est pour ça que toute personne, qu'il soit chrétienne ou juive ou communiste ou, si elle tombe vraiment sur les vrais livres de l'islam et les vrais livres qui ont la vraie biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent que l'aimer et décider de le suivre. C'est impossible que quelqu'un le connaisse et ne le suive pas. Non, le connaisse bien sûr dans yani sa vraie biographie. Donc la foi en islam consiste à approuver ce qu'a apporté le messager sallallahu alayhi wa sallam avec acceptation et obéissance. C'est-à-dire avec soumission et satisfaction. Pourquoi la soumission ne suffit pas? Car tu peux te soumettre à quelqu'un qui t'a contraint à te soumettre à lui. Il te met un revolver sur la tempe et il te dit, fais-moi une inclination. Ou bien fais-moi une prosternation. Mais ça, ce n'est pas la vraie soumission. La soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'elle comprenne quoi? Qu'elle comprenne aussi, la satisfaction totale. Non, tu es satisfait de ce que tu fais, tu le fais, c'est toi qui as choisi de le faire. Tu le fais avec amour même, avec amour. C'est pourquoi, il dit ici, ce n'est pas une simple croyance verbale, comme le pensent beaucoup de personnes et certaines personnes. Ce n'est pas seulement tu dis « Shahadu an la ilaha illallah, Shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu » et ça s'arrête là. Ce n'est pas une phrase qu'on dit. cette phrase. Pourquoi le perroquet, il va la dire, il ne va pas aller au paradis? Le perroquet va dire cette phrase, il ne va pas au paradis. Et l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, ne savait-il pas cela? Et était-il difficile pour lui de dire une phrase? Ensuite, il se trouvait au paradis. Mais la dire, c'est facile. Mais est-ce qu'il va se soumettre avec satisfaction totale? C'est ça, vraiment, le plus important dans la shahada. C'est-à-dire, la dire, l'attester, ensuite l'appliquer. Il a dit, en effet, la religion islamique comprend tous les avantages que possédaient les religions précédentes, tout en se distinguant de celles-ci par le fait qu'elles soient convenables en tout temps et à toute nation. C'est pas comme disent les gens que l'islam, c'était l'islam d'autrefois. C'était pour les Arabes quand ils étaient en Arabie Saoudite. C'est tout, ce n'est pas maintenant. L'islam s'est dépassé maintenant. Non. Toute personne qui dit ça, c'est une personne qui n'a pas connu l'islam, c'est tout. C'est une personne qui ne connaît rien de l'islam. Non. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate Al-Ma'ida, verset 48, il a dit, et sur toi, c'est-à-dire Mohammed, et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Naam. Et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. L'explication que l'islam soit convenable en tout temps, en tout lieu et à toute action, consiste à croire que le fait de s'y attacher fortement n'infirme pas le bien-être de la nation qui suit cette religion. Au contraire, par l'islam, la société sera corrigée et trouvera l'équilibre, la tranquillité et le bonheur. Et cela ne signifie pas, comme le revendiquent certains gens, que l'islam est soumis au temps, au lieu et aux nations. Non. Certes, l'islam est la religion de la vérité. Allah a garanti la victoire et la gloire à celui qui s'y attachera fortement et véridiquement. Sourate As-Saff, verset 9. Allah Ta'ala a dit, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Vous avez entendu? C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité. Pourquoi? Pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Regardez l'islam. Ça fait combien de siècles que ses adversaires veulent le dénigrer? Combien de siècles qu'ils essaient de donner de l'islam l'image la plus mauvaise? Est-ce qu'ils ont réussi? Des fois en critiquant l'islam, des fois en critiquant le Coran, des fois en critiquant le messager lui-même, alayhi salam, des fois en prétendant qu'il y a des fautes dans le Coran, des fois en prétendant qu'il y a des contradictions, des fois en prétendant qu'il ne marche pas avec la science, des fois en prétendant qu'il est contre la femme, qu'il est contre l'émancipation, qu'il est contre la civilisation, qu'il est contre la science, qu'il est contre. Est-ce que ceux-là ont-ils réussi? Est-ce que ceux-là vont-ils réussir? Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Car Allah Ta'ala, car cette religion vient du Seigneur, ne vient pas d'une personne. Elle vient de celui qui nous a créés. Elle vient de lui. Et lui-même a promis, il a dit, pour la placer. Regardez bien le verset. Pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des associateurs. Non. Pour la placer au-dessus de toute autre religion. Naam, je rappelle que il est possible d'être dans ce salon et dans l'autre qui est ouvert en Europe en même temps. Il est possible d'être là-bas ici en même temps. Ce n'est pas, dans Palto qu'il a cette option d'être dans deux ou trois salons à la fois. C'est pour ça que Je vous demande d'être, inshallah, là-bas, de marquer votre présence là-bas et de rester ici, écouter avec nous, inshallah ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran, surat An-Nur, surat An-Nur, verset 55. Il y a un verset, le musulman, alhamdulillah, essaye d'afficher ce verset. Très important, il contient beaucoup de choses. Écoutez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans surat An-Nur. Verset 55, il a dit Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et pratiqué les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité, il m'adore et ne m'associe rien. Et celui qui mécroit par la suite, ce sont là les pervers. Donc chauffeur, regardez bien ce verset. Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait des bonnes œuvres, qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui l'ont précédé. La succession sur terre, c'est ce que les gens appellent maintenant, ils disent le khilafa, que Allah Ta'ala va donner le califa, comme on dit maintenant. Naam. Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et font les bonnes œuvres, qu'il leur donnera quoi? Le califa. Donc qu'est-ce qu'il faut avant cela? Allah Ta'ala a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres. Donc il faut que tu crois d'abord et que secondo, tu fasses les bonnes œuvres. Et l'une des qu'est-ce qu'il y a dans les bonnes œuvres, qu'est-ce qu'il y a à la tête, c'est de connaître sa aqida, c'est de demander la science, c'est et de d'en demander la science, qu'est-ce qu'il y a à la tête, c'est de connaître la aqida. Et nous quand on parle beaucoup plus de aqida que de tawhid, pas comme les takfir disent tawhid, connaissent rien dans le tawhid, ils parlent jamais d'aqida. La aqida contient le tawhid. Le tawhid ne contient pas la aqida. Quand c'est tawhid, ça veut dire que tu parles seulement de quoi? Tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité et le tawhid des noms des attributs. Quand tu parles d'aqida, tu parles de tout. Tu parles du sirat, tu parles de l'enfer, du jannah, la vision d'Allah, le bassin, le tout ce qu'il y a. C'est ça la aqida. C'est pas seulement le tawhid qui se trouve lui-même à l'intérieur de la aqida. Le tawhid se trouve dans la aqida et la aqida ne se trouve pas dans le tawhid. C'est plus vaste. Al-Muhim, Allah Ta'ala a promis à ceux qui d'entre nous ont cru et pratiqué les bonnes œuvres qu'il va leur donner quoi? La succession sur terre. Ce sont eux qui vont commander. Ils vont leur donner le califa comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Hein? Il l'a donné à ceux qui nous ont précédés. Tayyib. Ensuite, il a dit, il va donner force et suprématie à leur religion, c'est-à-dire leur religion sera celle qui va dominer. Naam. Il va donner force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Et qu'est-ce qu'il va leur donner aussi? Il va leur changer leur ancienne peur en sécurité. Naam. Quand il n'y a pas le califat, quand c'est pas le musulman qui commande, quand c'est pas, naam, tu as peur. Tu as toujours peur, on te commande. À tout instant, on risque de te léser, de t'emmener en prison, de te tuer, de te. Mais quand il y a le califat, il y a l'islam, tu n'as peur de personne. C'est la religion la plus juste. Non? Le président de la République lui-même, tu déposes une plainte contre lui, il est quoi? Il sera peut-être emprisonné, peut-être fouetté, peut-être démis de ses fonctions, peut-être. C'est comme ça en islam. Tant qu'il n'y a pas en islam, il n'y a pas l'islam, donc on a toujours peur. On a peur, non? Le voleur, on ne lui fait rien. Quelques jours en prison, il sort. Le drogué, on ne lui fait rien. Quelques jours en prison, il sort. Il a des amis, il a ceux. Tu connais toi un juge, il te fait sortir. Et comme ça. Donc la peur est toujours autour de nous. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Allah Ta'ala a promis qu'il va t'enlever cette peur et te va changer en sécurité. Mais, à condition de quoi? Écoutez bien la fin du verset. Il m'adore et ne m'associe rien. Voilà les deux conditions citées et que citent toujours les savants. Ya'budunani, il m'adore. Wa la yushrikuna bi shay. Et ne m'associe rien. Donc, combien de gens, combien de musulmans parlent du matin au soir du califat? Non, califat, on veut califat, califat, non, du matin au soir. Et, alors qu'ils font plein de shirk, et que ce sont les plus grands ignorants qui puissent exister sur terre. Et ceux-là, du matin au soir, califat, califat, sharia, 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 non, mais ils sont pleins de shirk, ils ne connaissent rien dans la aqida. Rien dans la aqida. Si vous allez maintenant sur le paddock, tout à l'heure, je ne sais pas s'il est toujours là, il y avait un salon qui s'appelle Jihad puis Sharia. Écoutez, subhanallah, Jihad. Ensuite, Sharia. Subhanallah. Il n'y a pas aqida, vous voyez. Jihad, ensuite Sharia. Il n'y a pas la aqida. Vous devez dire aqida. Ensuite Jihad, ensuite Sharia. Non. Commence par le Jihad. Non. Commence par le Jihad. On va construire des armes et on est tous comme ça, plein de shirk, et on va faire le djihad. Le djihad, ils l'ont bien fait en Afghanistan. Ils l'ont bien fait contre les Russes. Et ils ont gagné. Est-ce qu'ils ont pu faire un État islamique? Les talibans, les vendeurs de la drogue. Quand ils ont gagné contre les Russes. Ça fait 15 ou 20 ans. Est-ce qu'ils ont pu faire le califat? Ils ont pu. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Pas d'aqida. Ils connaissent pas la aqida. Ils ont même tué, les talibans ont tué, de grands savants salafis. De grands savants de Al-Sunnah al-Jama'a. Comme Jamil Abdelrahman, un grand savant envoyé par l'Arabie Saoudite, ils l'ont tué là-bas, les talibans. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que si on veut que Allah Ta'ala nous donne la victoire, nous donne le califat, on doit être sincère avec lui. On ne doit pas faire de shirk. On doit suivre la vraie sunna. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, nous sommes des hanafites. Naam. Il faut aller tourner autour de certains tombeaux et demander aux morts de nous aider. Et lui, il leur dit, taqullah ya nas, taqullah. Quand vous voulez que Allah Ta'ala nous donne la victoire, ça c'est du shirk. Tu vas chez le mort, tu lui demandes, tu laisses Allah, tu vas chez le mort. Ah, ils ont dit, celui-là, il commence à nous casser la tête. Hein, et ils l'ont tué, ils l'ont assassiné. A'oudou billah, les talibans. Celui-là, ceux-là, ils vont donner le califat. Regardez Allah Ta'ala ce qu'il a dit. À condition, il a dit deux choses. Il m'adore et ne m'associe rien. Naam. Ya'boudounani wa la yushrikouna bi shay'in. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Ce que souffre l'islam. Pas avec ses ennemis des extérieurs. Avec ses ennemis intérieurs, avec les takfiri, avec les khawarij, avec les habash, avec les mu'tazila, avec, naam, ceux qui sont de lui, pas d'extérieur, de lui, naam, a'oudou billah. Ensuite, il dit aussi, l'islam est aussi une religion complète dans sa croyance et dans ses lois. Regardez maintenant à quoi appelle l'islam, en quelques points, en 5 ou 6 points. Premièrement, l'islam appelle à l'unicité d'Allah, al-tawhid, et interdit l'association, shirk. Allah Ta'ala a dit, al-Baqarah 21-22, aux gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ne lui cherchez donc pas des égaux. Et d'après Mu'ad ibn Jabal, un grand compagnon, le prophète alayhi sallam a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtie pas, qu'il a adoré seul, sans rien lui associer. Rapporté par Bukhari Muslim. Donc nous, on a des droits sur Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le droit d'Allah, et nous on a des droits sur Allah, et lui, il en a sur nous. Quel est le droit d'Allah sur nous, sur ses serviteurs? C'est qu'on doit l'adorer sans rien lui associer. Adorer Allah sans rien lui associer. C'est très important. C'est très important. Regardez, nous, seulement notre enfant, si on va quoi? On va l'éduquer, le faire grandir. Naam. Et ensuite, on va voir quoi? Que par exemple, au lieu qu'il travaille pour nous, il va travailler pour notre voisin. Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'on va accepter ça de notre enfant? Sa mère qui l'a enfanté, qui a souffert, qui a ceci, cela à cause de lui, pour le faire grandir. Maintenant, il a les diplômes, il a ceci. Ses parents sont pauvres. Au lieu d'aller travailler pour eux, pour les aider, il va travailler pour aider qui? Ses amis et les voisins. Et il n'aide pas ses parents. Est-ce que ça ne va pas leur faire mal? Si. Pourtant, leurs parents, ses parents, ne l'ont pas créé. Tout juste, ils ont été la cause. Ils l'ont enfanté. Imagine maintenant Allah Ta'ala qui t'a créé. Tu n'étais rien. Tu aurais pu ne pas exister sur cette planète si Allah Ta'ala avait voulu. Il ne t'aurait pas fait exister du tout. Et maintenant, il t'a fait exister. Tu es là sur cette terre. Tu respires son air. Tu manges ce qu'il a créé. Tu profites ce qu'il a créé. Tous les délices qui existent, toutes les joies qui existent sont de lui. Comme il a dit dans le Coran, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Il a dit, tout ce qui vous arrive de bienfait, c'est de lui. Alors, tu laisses Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas remercier un autre ou bien demander de l'aide à un autre. Je parle de l'aide que seul Allah ta'ala peut donner. Laissez Allah et aller demander le mort. Laissez Allah de lui demander de nous préserver des maux. Laissez Allah et mettre la main de Fatma sur le cou. Et comme ça, Allah Ta'ala n'accepte pas. Non. Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on lui fasse du shirk et qu'on lui fasse des associés, des égaux. Non. Deuxièmement, verset Tawbah, sourate Tawbah, verset 119. Deuxièmement, l'islam appelle à la véracité et interdit le mensonge. L'islam appelle à quoi? À être véridique et t'interdit le mensonge. Allah Ta'ala dit, oh vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Oh vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et d'après le grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, la véracité, le fait d'être véridique, ne pas mentir, mène à la piété. Et la piété conduit au paradis. Ensuite, l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit inscrit véridique auprès d'Allah. Et le mensonge conduit à la turpitude. Et la turpitude conduit à l'enfer. Et certes, l'homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit inscrit menteur auprès d'Allah. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, l'islam appelle à quoi? À la véracité et interdit le mensonge. Si quelqu'un va dire, oui, mais beaucoup de musulmans mentent, on leur dit, ça c'est les musulmans, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam qui a menti, ni l'islam qui leur a dit de mentir. Donc, toi, ne regarde pas les gens. Regarde ce que t'as dit ta religion, ce que t'as dit Allah Ta'ala, ce que t'as dit son messager, c'est tout. Ne regarde pas ce que font les gens. C'est pour ça que beaucoup de gens trouvent cette chose pour se cacher, si je puis dire, ou bien pour frapper l'islam. Ils disent, regardez les musulmans. Regarde celle-là avec le djilbab et regarde ce qu'elle fait. Regarde celui-là avec la barbe, la longue barbe et ce qu'il fait. Et il dit l'islam. Non, l'islam c'est une chose, et quoi? Et les musulmans c'en est une autre. Comme a dit Étienne Dine, rahimahullah. Étienne Dine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Alhamdoulilah que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Alhamdoulilah que j'ai connu l'islam avant qui? Avant les musulmans. Naam. Troisièmement, l'islam appelle à la justice et interdit l'oppression. C'est quoi la justice d'abord? C'est établir l'égalité entre les choses similaires et semblables. Et en même temps, à faire la différence et la différenciation entre celles qui ne sont pas semblables et égales. Donc la justice en islam, ce n'est pas établir l'égalité absolue comme certains l'affirment en disant l'islam c'est la religion de l'égalité. Ce n'est pas vrai. Non, l'islam appelle à la justice. Mais c'est quoi la justice? c'est établir l'égalité entre des choses qui se ressemblent. Et ce n'est pas établir l'égalité absolue comme l'affirment certains. C'est pourquoi ils vont te dire, comment l'islam il donne par exemple le double à la femme dans l'héritage. Il te dit alors c'est où l'égalité, c'est où la justice. Vous voyez, il va te dire comme ça. Il ne sait pas qu'en islam, la femme n'est pas obligée de travailler, elle reste chez elle. Ensuite, il va lui donner la dot. Si elle demande des milliards, il doit donner des milliards s'il la veut. Sinon, il va vers une autre. Il ne sait pas combien qu'on doit donner à la femme. Non. Et qu'elle reste chez elle et que rien ne lui manque. Bidnillah ta'ala. Tayyib, ici, il dit, car établir l'égalité entre les choses différentes n'est rien d'autre qu'une injustice. Tu veux établir l'égalité entre deux choses qui ne se ressemblent pas, par exemple. Et tu dis, c'est ça la justice. Ça, c'est de l'injustice, au contraire. L'islam ne reconnaît pas ceci. Et il reconnaît encore moins celui qui commet cette injustice. Allah Ta'ala a dit, Sourate Ghafir, le pardonneur, verset 18. Qu'est-ce qu'il a dit? Les injustes n'auront ni à mes ailés, ni intercesseurs écoutés. Les injustes n'auront ni à mes ailés, ni intercesseurs écoutés. Et d'après Jabr, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, redoutez l'injustice. Redoutez l'injustice. Attention à l'injustice. Car elle sera ténèbre le jour de la résurrection. Rapporté par Muslim. Attention à l'injustice. Car elle sera quoi? Des ténèbres le jour de la résurrection. Subhanallah al-Azim. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a même fait peur de quoi? D'être injuste envers un mécréant. Le mécréant, si tu es injuste contre lui, le messager a dit, attention alors à ses doigts. Attention si tu fais des invocations contre toi, car ces invocations seront exaucées. C'est un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' de Cheikh al-Albani. D'où la grande différence entre nous et les ignorants des takfiris. Des takfiris qui disent quoi? Oh, celui-là c'est un kafir, c'est un mécréant, comme dit Salah 19. Il dit, tu peux voler le mécréant, tu peux lui mettre la bombe, va à la banque, mets une bombe et rentre, et prends tout l'argent qu'il y a. Pourquoi? C'est un mécréant, son argent te revient, comme ça dit Salah 19. Et le takfir, il est pauvre. Non. Il dit, celui-là c'est un mécréant, tu peux le frapper, non. Donne-lui un coup de couteau, non. Prends-lui sa voiture, prends-lui sa femme, ses enfants, c'est bien. Rentre dans sa vie là, pille-lui tout ce qu'il a. Pourquoi? C'est un mécréant. Non, c'est un mécréant. Lorsque le Mourir ibn Shu'ba, le hadith se trouve dans le Bukhari, lorsque le Mourir ibn Shu'ba, radiyallahu ta'ala anhu, est venu pour attester son islam devant le messager, qu'est-ce qu'il avait fait auparavant? Il avait pillé, ou l'a pris de force, à certains coffres de l'argent. Et il est venu avec un sachet plein d'argent. Il a dit, Ya Rasulallah, je suis venu attester que il n'y a de divinité qui mérite l'adoration que Allah et que tu es son messager, et voici de l'argent que j'ai ramené avec moi. Qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, quant à l'islam, ta shahada, ton attestation, on l'accepte. Quant à ton argent, non. L'argent que tu viens de ramener, de voler des gens des kuffars, parce que toi-même, tu étais kafir il y a 5 minutes. Non, on n'accepte pas l'argent volé. Ça veut dire que cet argent doit revenir à leur propriétaire. Quatrièmement, l'islam appelle à l'honnêteté et interdit la déloyauté. L'islam appelle à l'honnêteté et interdit la déloyauté. Non. Allah Ta'ala a dit, Sourate Nisa, verset 58. Sourate An-Nisa, verset 58. Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts, c'est-à-dire tout ce qui est dû à autrui, de rendre les dépôts à leur ayant droit. Et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Sourate An-Nisa, verset 58. D'après Abu Huraira, Allah Ta'ala l'agré, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit, les signes qui caractérisent l'hypocrite sont au nombre de trois. Trois signes caractérisent l'hypocrite. Quels sont ces trois signes? Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il ne le restitue pas. Donc, les trois signes de l'hypocrite, c'est quoi? Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il ne le restitue pas. Rapporté par Bukhari Muslim. Cinquièmement, l'islam appelle à la fidélité et interdit la trahison. Allah Ta'ala a dit, ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Al-Ma'ida, verset 7. Non. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Et il a dit aussi dans Sourate Al-Isra, verset 34. Et remplissez l'engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque est caractérisé par ces quatre choses est un hypocrite. Et celui qui est caractérisé par l'une d'entre elles a un signe d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Quelles sont ces quatre choses? Il a dit, si on lui confie un dépôt, il ne tient pas son engagement. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il le trahit. Et lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Vous avez entendu? Je répète. Quels sont les quatre signes d'hypocrisie? Si on lui confie un dépôt, il ne tient pas son engagement. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait un pacte, il le trahit. Et lorsqu'il se querelle, il est de mauvaise foi. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait des pactes, avec qui? Avec des mécréants, avec ses adversaires. Jamais de sa vie, il n'a trahi. Jamais de sa vie, il n'a trahi. Il a toujours dans sa vie tenu quoi? Tenu ses engagements. Ce qui a fait de lui, yani le meilleur homme, la meilleure créature qui puisse exister. Même ses ennemis lui reconnaissent cette grande qualité. Regardez seulement, c'est un exemple, c'est tout. Regardez par exemple, lors du pacte d'Al-Hudaybiya, qu'est-ce qu'il y avait entre autres dans le pacte, entre le messager alayhissalam et les kuffars? Il y avait entre autres que, si jamais un musulman va des musulmans vers les kuffars, on ne doit pas le rendre, il doit rester chez eux. Et si jamais un kafir, va du côté des kuffars vers le musulman, on doit le rendre au kuffar. Apparemment, c'est une condition qui est néfaste aux musulmans. Ça, comment? C'est le kafir qui commande. Lui, s'il y a quelqu'un qui vient de lui, je dois le lui rendre. S'il y a quelqu'un qui part de chez moi, je ne le lui rends pas. Et le messager d'Allah a accepté cette condition parmi d'autres conditions. Alors imaginez, quand Abu Basir est venu, quelqu'un, un kafir, qui était à la Mecque. Ensuite, il est devenu musulman et il a voulu aller vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé chez lui, le prophète venait juste de faire ce pacte. Quand il est arrivé chez lui, qu'est-ce qui s'est passé? Les kuffars lui ont dit à Rasulullah, cette personne, elle est venue vers vous alors que c'était prévu que toute personne qui vient vers vous, elle doit venir vers nous. Et subhanallah l'adhim, le messager, yani, a fait comprendre à l'autre qu'il devait quoi? Qu'il devait donc aller vers les kuffars, yani, être pris par eux. Subhanallah l'adhim. Et l'autre, bien sûr, quand les deux kuffars l'ont pris, en cours de route, il sait quoi? Il sait, comment on dit le mot? Yani, il s'est débarrassé d'eux. Il s'est débarrassé de ces deux kuffars. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il n'est pas allé vers le messager. Pourquoi? car il sait que s'il va là-bas, naam, il vient de faire une faute. Naam. Et que quoi? Et que le messager ne va pas accepter ça. Il doit le rendre là-bas au kuffar, car il y a un traité. Donc il est resté tout seul là-bas, dans un endroit. Naam. Et ensuite, quelques-uns des kuffars l'ont suivi. Quand ils ont su que le messager, alayhi salam, puisqu'il a fait un pacte avec les kuffars, comme quoi tout musulman qui vient, il doit le... comme quoi tout kafir qui vient des kuffars vers lui, il doit le rendre. Ils ont tous yani, su que le messager alayhi salam tenait beaucoup à quoi, à ses engagements. Même si c'était avec un kafir ou avec un juif ou avec je ne sais pas qui. Sixièmement. Attendez, j'ai pas terminé ici. Sixièmement, il appelle au bon comportement envers les parents et interdit l'ingratitude envers eux. L'islam appelle au bon comportement avec les parents et interdit l'ingratitude envers eux. Quand je dis bon comportement avec les parents, je dis même s'ils sont des koufars, même s'ils sont qui? Ce sont des mécréants. Allah Ta'ala a dit, sourate Al-Isra, verset 23-24, il a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et marquez de la bonté envers les pères et les mères. Et si l'un d'eux, c'est-à-dire des pères et des mères, ou tous deux, atteignent la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi, c'est-à-dire signe d'exaspération, voire de mépris. Allah Ta'ala dit, et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dit, ô mon Seigneur, fais-le à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé lorsque j'étais tout petit. Regardez l'islam, ce que dit des parents. Naam, il a dit, si l'un d'eux, ou bien tous les deux, atteignent la vieillesse auprès de toi. Pourquoi il a dit atteignent la vieillesse? Parce que l'islam veut te dire que les parents, quand ils atteignent la vieillesse, ils deviennent difficiles à supporter. C'est là, en ces moments difficiles, que Allah Ta'ala veut quoi? Veut te tester. C'est en ces moments difficiles où le père et la mère demandent des choses qui sont assez difficiles. Naam. Il faut les emmener aux toilettes, il faut le tenir par la main pour qu'il ne tombe pas, il faut les faire monter les escaliers, il va te dire amène-moi cette chose, ensuite tu l'amènes cette chose, il va t'engueuler, il va te dire c'est pas comme ça, toi tu es ceci, toi tu es cela, il commence à dire des choses. C'est vraiment difficile, c'est là-bas que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, veut te tester et voir qu'est-ce que tu vas dire et comment va être ton comportement. Il te demande de dire, ô mon Seigneur, non seulement il te demande de ne pas leur dire des choses qui sont mal, mais mieux encore, il te demande de leur faire des invocations et de dire, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde. Pourquoi? Au moins, parce qu'ils t'ont élevé quand tu étais tout petit. N'oublie pas cette chose. Qui a fait de toi que tu sois maintenant, masha'Allah, comme tu es? Grand, fort, naam, en bonne santé, tu travailles, tu as une maison, une femme, des enfants, une voiture. Qui a fait tout ça, bi'idhnillahi ta'ala, si ce n'était pas eux, si tu avais jeté comme ça tout petit, comme certaines femmes jettent leurs enfants, comme certaines femmes les jettent, subhanallah al-azim, dans un morceau de tissu, ils les jettent, ou les abandonnent. Mais toi, regarde comment tes parents, mashallah, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont souffert. Ta mère spécialement, beaucoup plus. Ton père aussi, comme il a couru pour ramener cet argent, pour te nourrir, pour te faire grandir. Je te demande seulement maintenant de leur faire des doigts, c'est tout. Naam. Et Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les grands péchés sont d'abord l'association, ensuite en deuxième position, l'ingratitude envers les parents. Ensuite, le meurtre et le faux serment, rapporté par Al-Bukhari. Les grands péchés sont l'association, ensuite en deuxième position, l'ingratitude envers les parents. Non. C'est pour ça que une personne est allée vers le messager, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ya Rasulallah, j'ai laissé mes parents ou bien ma mère en train de pleurer. Et je suis venu pour aller au djihad. Il lui a dit, reviens vers tes parents ou bien vers ta mère et fais-la rire comme tu l'as fait pleurer. C'est ça le djihad. Reviens vers elle et fais-la rire comme tu l'as fait pleurer. Ça, c'est le meilleur djihad. Naam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Bukhari ou Muslim, a dit, c'est le messager qui a dit, il a dit, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, trois fois. On a dit qui? Il a dit celui qui, dont le père et la mère, ou bien les deux, atteignent la vieillesse auprès de lui et ne les traitent pas avec bonté. Celui-là n'entrera jamais au paradis, rapporté par Muslim. Je répète, qu'il soit humilié trois fois. Celui qui, dont le père et la mère, ou bien l'un d'eux, atteint la vieillesse auprès de lui et ne les traite pas avec bonté. Celui-là n'entrera jamais au paradis. Non. Il reste septièmement, on va terminer avec septièmement aujourd'hui, inshallah ta'ala. L'islam appelle à préserver les liens familiaux et interdit de les rompre. Allah ta'ala a dit, sourate An-Nisa, verset 7, ou bien verset 1, il a dit, craignez Allah ta'ala, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens familiaux. Certes, Allah vous observe parfaitement. Donc, craignez quoi? Craignez Allah, mais craignez aussi de rompre les liens familiaux. L'islam t'apprend comment quoi? Comment unir la société, unir ta famille. Ce n'est pas comme dans les sociétés européennes où la personne qui a atteint 18 ans, elle doit quoi? Elle doit quitter la maison. Même si c'est une fille. Même si c'est une fille, elle doit se débrouiller toute seule dehors. Se débrouiller, elle fait ce qu'elle veut. Elle, Mohim, ce n'est pas nous qui allons travailler pour elle. Comme ça, aucune quoi? Aucune miséricorde dans le cœur. Aucune miséricorde dans le cœur. Ni du côté des parents, ni du côté des enfants. Les enfants, quand ils voient que les parents sont devenus vieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils les emmènent dans ce qu'on appelle, comment qu'on appelle ça? Dans un lieu où yani, il n'y a que les vieux et les vieilles. Dans un centre de vieillesse, si je puis dire. Non, tu vois ton père, maison de retraite. Exactement. Tu jettes ton père et ta mère dans une maison de retraite. Et tu dis que yani, c'est la civilisation, c'est l'émancipation, c'est ça. Subhanallah, à ce point de voir ton père et ta mère qui a été quoi? Qui a été la cause de ta venue dans ce monde. Allahu Akbar, la cause de ta venue en ce monde. Naam. Et maintenant tu la jettes dans une maison de retraite pour que tu ailles profiter toi et ta femme. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Naam. Mais l'islam te dit que celui qui, naam, dont le père et la mère, ou bien les deux, atteignent la vieillesse auprès de lui, et ne les traite pas avec bonté, celui-là n'entrera jamais au paradis. Tout ce qu'il fait est nul. Naam. Et enfin, huitièmement, d'ailleurs, j'ai oublié le hadith. D'ailleurs, Jubayr ibn Mut'im rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens familiaux. Rapporté par Bukhari Muslim. N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens familiaux. Et huitièmement et dernièrement, l'islam appelle à être bon avec ses voisins et interdit de leur nuire. L'islam appelle à être bon avec ses voisins et interdit de leur nuire. Sourate An-Nisa, verset 36. Allah Ta'ala a dit, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain et le partenaire et le voyageur et ceux qui sont sous votre gouverne. Car Allah Ta'ala, car certes Allah Ta'ala n'aime pas les présomptueux et l'arrogant. En somme, l'islam appelle au noble caractère et interdit tout mauvais comportement. Et il exhorte à faire de bonnes œuvres et interdit toute mauvaise action. Allah Ta'ala a dit, certes Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la tyrannie. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Sourate An-Nahl, les abeilles 90. Dans le prochain cours, inshallah ta'ala, on va voir quoi? Les piliers de l'islam. On va voir les piliers de l'islam. Naam. On arrête ici, inshallah ta'ala, et on va répondre à vos questions, bismillah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, on se rencontre, inshallah ta'ala, dans 10 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Fi sawt. Alhamdulillah. Donc on va inchallah ta'ala répondre aux questions bi'idna subhanahu wa ta'ala. Avant cela, je fais remarquer deux choses. La première, vous savez que chez nous en Algérie, ça fait un certain temps, c'est devenu, yani le week-end, c'est devenu vendredi et samedi. Naam. Au lieu que jeudi, vendredi, comme autrefois. C'est pour ça qu'il est possible que jeudi, il est possible que je change le jour du samedi pour le remettre le lundi. Donc il est possible que les cours soient le lundi, mercredi, au lieu du mercredi, samedi. De toute façon, ces choses-là, vous pouvez les vérifier sur le site. Sur le site, hein, vous rentrez, vous voyez si l'emploi du temps a changé ou bien n'a pas changé. Ensuite, il y a une autre chose. Attendez une seconde. Une seconde, inshallah ta'ala. Taïb. Deuxième chose que je voulais dire, ces deux jours, il y a eu une petite chose qui m'a interpellé sur le Paltalk. Sur le Paltalk, parmi les salles des Tekfiris, il y a une salle très connue dans le Tekfir et l'égarement, qui fait appel du matin au soir au djihad, le faux djihad, bien sûr, le pseudo-djihad, basé sur l'ignorance, qui s'appelle... un phare, où il y a le phare parmi les ténèbres, quelque chose comme ça. Section Europe. Naam. Ce salon, hier ou l'avant-hier, les principaux chefs de ce salon ont été levés. Ont été levés par la DST. Naam. Et ils ont été maintenant, il y a une interdit de rouvrir le salon et de parler sur Paltalk, etc. Anyway. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, ces gens-là font beaucoup plus de mal à l'islam que de bien. Et bien sûr, eux, ils vont dire que nous, alhamdoulilah, on aime l'islam, on aime les gens, on aime le djihad, on aime le khilafa, on aime Allah, on aime le paradis, c'est normal. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux qui, dans ce bas monde, ont été dans la perdition, ont été égarés et qui croyaient, c'est ça le plus important, croyaient qu'ils faisaient de bonnes œuvres et de bonnes choses. Ces gens-là, comme vous savez, le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le bien qu'ils en font. Le mal qu'ils font à l'islam est beaucoup plus grand que le bien qu'ils font. Pourquoi ? Ils détournent les gens du vrai islam, du vrai, du pur, du beau, de celui qui est descendu sur le messager al-Islam et ses compagnons, de l'islam qui a été suivi par Muhammad al-Islam, ses compagnons, leurs enfants et leurs enfants. Les trois générations qui avaient la tazkiyah, qui avaient la tazkiyah du messager al-Islam. Ensuite, il y a eu les sectes, les khawarij, les mu'tazila, les karamiya, les qadariya, les jabriya, les chiites, les rawafid, les et ces sectes, ne vont pas finir d'exister jusqu'à Yom al-Qiyamah, les sectes qui quoi, qui vont parler au nom de l'islam, mais pour le dénigrer. Soit en sachant cela, soit sans le savoir. Et la plupart des khawarij et takfiriyyin ne le savent pas, bien sûr. Ils croient qu'ils sont dans le bien, comme j'ai cité tout à l'heure, et qu'ils font des choses, mashallah, et qu'ils nous préparent le califat, et nous préparent yani, la primauté de l'islam sur toutes les autres religions, et que bientôt on va avoir un règne islamique, un statut islamique, où il y aura la sharia, etc. Non, mais ils ne savent pas que, pour avoir cela, mon frère et ma soeur, tu dois vraiment être sincère et vraiment, vraiment, ne pas t'écarter d'un iota de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si par contre tu vas yani, la sunna est à droite et toi tu es à gauche et tu vas yani, faire ta da'wah en te basant sur des innovations et sur des choses qui n'ont jamais existé en islam et sur ta fausse compréhension de l'islam, naam, et tu vas profiter pour dénigrer les savants, les insulter, les rendre mécréants, les faire sortir de l'islam, naam, rire d'eux, se moquer d'eux, des grands savants, les héritiers du messager alayhi salatu wasalam. Donc, tout cela, c'est comme on dit les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la chair des savants est empoisonnée. Quiconque parle des grands savants, c'est comme s'il a parlé sur le messager alayhi salatu wasalam. Quiconque parle des grands savants, ça veut dire qu'il mange quoi? Il est en train de manger de la chair de qui? La chair empoisonnée. C'est comme si on te donne une côtelette, mais elle est empoisonnée. Tu es en train de manger, mashallah, ça te plaît, elle a un bon goût. Et ensuite, c'est quoi? C'est ta faim. C'est ta faim. Non. Tous ceux qui parlent des grands savants, parlent sur eux, les dénigrent. Non. Ils auront une mauvaise faim dans cette vie. Avant l'au-delà. Qu'est-ce qui les attend là-bas, Audoubillah? Qu'est-ce qui les attend? Donc, je profite pour vous mettre ce lien. Un lien fait par des frères, mashallah. Des frères qui n'aiment pas la bid'a et l'innovation. Des frères qui déteste le salon que je viens de vous citer, qui ont fait yani, une vidéo contre eux. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette vidéo, inshallah ta'ala. Et Mouslim, quand vous terminez de voir la vidéo, tu me dis, inshallah ta'ala, qu'on a terminé. Je vous attends, inshallah ta'ala. Naam, Mouslim, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu es là, inshallah ta'ala? Alhamdulillah, moi je me suis trompé, j'ai pris le micro dans l'autre salon. Al-Muhim. Donc, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant Azza wa Jal, qui nous a aidés et guidés. On lui demande, Azza wa Jal subhanahu jalla fi'ula, qu'il ne nous enlève pas cette grande ni'ma et qu'il nous laisse toujours sur le chemin de la clairvoyance jusqu'au jour où on le rencontrera, loin des gens de l'hérésie, de l'innovation et des sectes égarées. Naam. Tfadl hayyakallah, prends le micro, inshallah, et pose les 5 premières questions.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, inshallah? Est-ce que le son est clair, inshallah, sur toutes les rooms? Vous m'entendez, inshallah? Alhamdulillah, sur la section Europe. Mohamed, est-ce que tu m'entends, Inch'Allah? Mohamed? Section Europe. Alhamdulillah. Je vais commencer la lecture des questions. Donc, question de Khadija. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans Surat al-Rahman, verset 27, Allah Ta'ala dit وَيِبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Al-Jalali wal-Ikram, est-ce un nom ou un attribut? Pouvez-vous nous donner plus de précisions? Qu'Allah vous récompense pour vos doros et le temps que vous nous accordez. Qu'Allah nous préserve, afin qu'Allah vous préserve et vous accorde son paradis. Question de Fatima 47. Salamu alaykum wa rahmatullah. Ya Cheikh, qu'Allah vous préserve. Que doit-on répondre à une personne qui nous dit que le fait de se couvrir les cheveux n'est pas mentionné dans le Coran, qu'il y a écrit « Rabattez votre grand voile » et ce n'est pas dit explicitement qu'il faut se couvrir les cheveux. Barakallah fikoum ya shir. Question de Bint Ahmed. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shir. Est-il permis de recevoir des cadeaux des mécréants, Barakallahu fikoum. Sur le InSpeak, question de Qassim. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous me réexpliquer pour l'heure de Salat Fajr? J'ai du mal à comprendre, je crois, vu qu'ici en France, il n'y a que l'azan pour Subh. Faut-il faire l'azan Fajr chez soi et prier Fajr chez soi avant d'aller à la mosquée, puis prier Subh en groupe? Ou faut-il à la mosquée 20 ou 30 minutes avant Subh et prier le Fajr dans la mosquée? Barakallahu fikum, Cheikhana. Question de Yadoun. Salam alaikum. Est-il autorisé d'écouter le Coran en cuisinant? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Vous entendez quoi, Cheikh, sur Europe? Car le frère m'a dit. Le frère m'a dit qu'il avait le son. Est-ce que c'est bon, Mohamed, sur Europe? Est-ce que vous avez bien entendu, Inch'Allah? Donc, Oum Islam, Inch'Allah, vous demande d'arrêter la vidéo. Et je ne sais pas si ça a été fait. Oum Islam, vous avez lancé la lecture de la vidéo chez vous, Inch'Allah, arrêtez la vidéo. Barakallahu fikoum, afin qu'on puisse entendre correctement la rediffusion. Ah, Mshirana, je ne peux pas écouter, je suis en mute là-bas. C'est pour ça que c'est les autres qui doivent me dire. Non, donc c'est bon, Inch'Allah. C'est bon, alhamdoulillah. Tfadal, cher.
Muslim, je n'ai entendu que deux questions. Celle qui parle de Jalal ou l'Ikram et celle qui parle qu'il fallait couvrir, il n'y a pas un texte qui dit qu'il faut couvrir les cheveux. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les trois autres questions?
Non, cher, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Surtout, dites-moi si vous m'entendez mal, cher. Dites-le moi, Inch'Allah, pour pas que je lise le reste. Donc, c'était la question de Bint Ahmed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Est-il permis de recevoir des cadeaux des mécréants? Barakallahu fikoum. Question de Qassim. Salam alaikum, cher. Pouvez-vous me réexpliquer pour l'heure de Salat Fajr? J'ai du mal à comprendre, je crois. Vu qu'ici en France, il n'y a que l'adhan pour Sobh. Faut-il faire l'adhan Fajr chez soi et prier le Fajr chez soi avant d'aller à la mosquée, puis prier Sobh en groupe? Ou faut-il aller à la mosquée 20 à 30 minutes avant Sobh et prier le Fajr dans les mosquées? Barakallahu fikum, Cheikhana. Question de Yadoun. Salamu alaykoum. Est-il autorisé d'écouter le Coran en cuisinant? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh.
Naam. Alaykoum salam wa rahmatullah. Naam. Pour le verset, voyez par où je vois Rabbika, d'où le Jalal ou l'Ikram. Naam. D'où le Jalal ou l'Ikram, les deux ne sont pas des noms. Naam, ce sont des attributs. Naam. Et c'est pour ça que l'avis le plus juste, c'est que Al-Jalil n'est pas un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jalil, c'est l'avis le plus juste. Que Al-Jalil n'est pas un nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore ici, il n'a pas dit Al-Jalil, il a dit Dhul-Jalal ou Al-Ikram. Donc, Inch'Allah ta'ala, ces deux-là ne sont pas quoi? Ne sont pas des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont juste des attributs. En ce qui concerne couvrir les cheveux, et si la personne voudrait encore d'autres détails, je ne sais pas ce qu'elle veut exactement comme détail. Qu'est-ce qu'elle veut exactement comme détail dans ces deux attributs. L'essentiel, c'est qu'elle sache que ce ne sont pas des noms. Naam. Ensuite, en ce qui concerne couvrir les cheveux, si elle dit qu'il n'y a pas dans le Coran un verset, on va lui dire, si tu veux dire un verset explicite, naam, explicite comme ça, qu'il n'y en a pas, d'accord. Mais, si tu veux dire que le fait de se couvrir les cheveux ne se trouve pas dans le Coran ou là, en islam, alors celle-là, c'est vraiment qu'elle est égarée. Déjà, le fait que Allah Ta'ala dise وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ lorsque Allah Ta'ala demande qu'elle mette le djilbab et qu'elle le fasse descendre. Non. On va lui dire, c'est quoi le djilbab en arabe? C'est quoi? C'est un habit qui commence par la tête et descend jusqu'à couvrir les pieds. S'il commence par la tête, c'est qu'on doit le poser sur la tête. Si on le pose sur la tête, c'est que, yani, on doit quoi? On doit cacher ses cheveux. Ensuite, Allah Ta'ala dit yudnina alayhinna. Parce que les femmes d'autrefois, la période anti-islamique, quand elles mettaient par exemple un foulard sur leurs cheveux, sur leur tête, elles faisaient paraître la moitié de leurs cheveux. Alors Allah Ta'ala dit yudnina alayhinna. Il a dit qu'elles descendent leur djilbab pour qu'ils descendent, pour que le djilbab descende vers le front, comme ça pour cacher quoi? Tous les cheveux. Pour que comme ça, quand les gens voient une femme pareille, sachent que c'est une croyante. L'autre, la mécréante, elle le met comme ça au milieu, comme le faisaient les femmes au temps de la Jahiliya, on voyait la moitié de leurs cheveux. Maintenant, Allah Ta'ala nous a demandé de faire descendre le djilbab, de le faire descendre, jusqu'à ce qu'il descende vers le front, presque vers les sourcils, pour que justement les cheveux soient cachés. Ensuite, quant à recevoir, bon, c'est pas la peine de parler des hadiths qui parlent des femmes qui ne se couvrent pas. Hein. Quant au recevoir des cadeaux des mécréants, on va voir deux choses. La première, est-ce que le cadeau qu'il m'a fait a une relation avec une fête religieuse, par exemple chez lui? Dans ce cas, ce n'est pas permis de l'accepter, ni que je lui en donne, si ça a rapport avec une fête religieuse. Mais si, par exemple, ce mécréant m'a donné un cadeau, pour quelque chose de la dunya, j'ai eu un enfant, j'ai réussi un examen ou là, c'est permis, disent les savants, de le prendre. Tant que ce mécréant qui me l'a donné, je ne suis pas en guerre avec lui. Non. Et pour Salat al-Fajr, pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai dit que le Adhan de nos jours, il est fait avant l'heure. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on entend le Adhan, on attend. On attend au moins un quart d'heure. Si on peut 20 minutes, 25 minutes, c'est mieux. Sinon, comme j'ai dit, on attend, par exemple 20 minutes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Non. Ensuite, si on va faire la prière à la maison, on ne va pas à la mosquée, ou là la mosquée est loin, ou là on est une femme, ou là. Ensuite, on fait l'adhan. On fait l'adhan. Un seul adhan. Quand on termine l'adhan, on fait salat al-fajr. Salat al-fajr. Là où on va dire, qu'il y a eu le kafiron, qu'il y a eu Allah wahad. Là, on attend à peu près 5 minutes, et on fait salat al-subh. On fait salat al-subh. Maintenant, si on va à la mosquée, qu'est-ce qu'on fait? Quand on entend l'adhan à la maison, on attend. Mais bien sûr, c'est dans le cas où la mosquée attend aussi 20 minutes. Si la mosquée attend aussi 20 minutes, donc j'attends moi à peu près un quart d'heure. Ensuite, je fais salat al-fajr à la maison et je vais à la mosquée. Sinon, je vais à la mosquée. Quand je termine avec eux, salat al-subh, je refais salat al-fajr. C'est comme ça que je fais la plupart du temps moi. Allah Azza wa Jal a'lam. Quant à écouter le Coran en cuisinant, Naam, à condition que on entende ce qu'il est en train de dire et qu'on médite. Ce qui est bien sûr, entre parenthèses, un peu difficile. Naam, à condition que quoi? Qu'on entende et que quoi? Et qu'en même temps, on médite. Mais à chaque fois, si je suis en train de parler avec d'autres personnes, ou bien la voisine, ou bien je dois éteindre le Coran. S'il y a quelqu'un qui me parle au téléphone et comme ça, je dois éteindre le Coran. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadhal.
Non, on va donc passer aux cinq prochaines questions, Inch'Allah. Et donc, je demande à toutes les personnes qui lèvent la main, si leur question est passée, Inch'Allah, ils la baissent. Barakallahu fikoum. Donc, question de Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Une sœur demande: en ce moment, je ne suis pas bien concentré lorsque je prie, à tel point que je dois souvent faire les prosternations de l'oubli. Est-ce que mes salats sont tout de même acceptés, qu'Allah vous récompense et vous élève en degré? Mouad, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans ma ville, beaucoup de musulmans scolarisent leurs enfants dans des écoles privées catholiques, prétextant un niveau élevé et la possibilité pour les filles de porter le hijab. Certaines écoles sont fréquentées majoritairement par des musulmans. Scolariser ses enfants dans de telles écoles et payer une cotisation mensuelle, est-ce les aider à propager leur shirk? Jazakumullah khayran. On passe sur le InSpeak, Inch'Allah. Question de Salafia 2. Salamu alaikum, Cher. Est-ce qu'une personne ensorcelée peut savoir qui l'a ensorcelée dans ses rêves? Si pendant une certaine période, elle rêve des mêmes personnes. Est-ce que cela veut dire quelque chose? J'ai des trous de mémoire, est-ce normal? En général, quel positionnement doit avoir le musulman face aux rêves? Barakallahu fikoum. Donc là, c'est Hafsa 2. Par contre, c'est pas vraiment une question, cher. Donc elle dit Bismillahirrahmanirrahim. Salamu alaykoum wa rahmatullah. J'implore Allah Azzawajal de récompenser notre cher par le plus haut degré du paradis, ainsi qu'à ceux qui l'aiment, pour le dars de ce soir, masha'Allah. Et je me suis rendu compte que dans le mail dont j'ai demandé qu'il me réponde, entre parenthèses, en ce qui concerne mon cas, seul à l'étranger, que je n'ai pas posé de questions claires, mais j'ai plutôt demandé des conseils pour le quotidien, comme par exemple, quel comportement adapter. Alors je demande si le cheikh veut que je précise mes questions. Et donc pour la dernière question du Paltalk, le frère Albani Muslim veut la poser directement au micro. Donc, Akhi, je te débloque, Inch'Allah, prends le micro et pose directement ta question. Tfadal, Inch'Allah.
Salam alaikum wa rahmatullah. Vous avez du son? Alhamdulillah. Alaikum wa Bien sûr, j'aimerais savoir. En fait, on a un professeur qui est chez nous et il est en train de nous apprendre l'arabe, le tawhid et le tajwid. Il nous apprend en fait l'arabe et la religion en fait. Il nous fait des cours. Et moi en fait je sais pas est-ce que je peux prendre de lui ou pas. Parce que je sais pas, je connais pas vraiment son manhaj. Et j'aimerais en fait que vous me conseillez pour savoir comment je pourrais savoir son manhaj est-ce qu'il est bien ou pas. Parce que quand il parle, alhamdoulilah, il utilise des grands savants. Donc j'aimerais que vous me faites nasiha, inchallah. Et j'aimerais juste aussi vous montrer une vidéo, si vous pouvez ouvrir votre télé, inchallah. Barakallahu fik. Salam
Non. Donc, c'est moi d'abord qui pose des questions. Non. La première question, je ne l'ai pas bien entendu, celle qui parlait de qu'elle était distraite dans la salat. Inch'Allah ta'ala, si tu pouvais recommencer cette question. Et aussi pour la personne qui a dit que si elle voulait, yani, elle précisait ses questions, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la quatrième question. La personne qui a dit que le quotidien, etc., s'il veut, je lui précise mes questions. Elle a dit, je ne l'ai pas comprise. Inch'Allah ta'ala, tafadhal, explique-nous.
Non, mes chers, donc par rapport à cette dernière question, la quatrième, c'est la sœur qui vous a envoyé un mail. Cette sœur qui est à l'étranger, elle vous a envoyé un mail au mois de février. Je ne me rappelle plus de la date, 21 février, je crois. Alors, je me rappelle plus vraiment. Et en fait, elle s'est rendue compte que dans ce mail, elle vous avait demandé plutôt des conseils et elle ne vous avait pas donné elle ne vous avait pas posé des questions claires. Donc elle demande si vous vouliez qu'elle vous pose des questions claires, Inch'Allah, pour que vous lui répondiez. Je ne sais pas si vous l'avez lu le mail. Et donc pour la première question que vous n'avez pas compris, je la répète, Inch'Allah. Donc c'était la question de Mohamed. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Une sœur demande: en ce moment, je ne suis pas bien concentré lorsque je prie, à tel point que je dois souvent faire les prosternations de l'oubli. Est-ce que mes salats sont tout de même acceptés? Qu'Allah vous récompense et vous élève en degré. Tafadhal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Pour la personne, cette personne qui vient de parler de la salat, qu'elle l'a fait yani, tout en étant un peu distraite, et que yani, elle l'a fait avec des prosternations d'oubli, et demande si elle est acceptée. Bien sûr que la salat, quand on la répare avec des prosternations d'oubli, elle devient acceptée. Mais elle ne sera jamais comme celle qui n'a pas de prosternation d'oubli. Car celle-là, celle qui n'en a pas, est la plus parfaite. Est la plus parfaite. Non. Mais, comme yani, l'être humain en général, et le croyant yani, en particulier, puisqu'il fait la prière, etc., qu'il lui arrive d'être distrait, et que le shaitan est toujours là, qu'il veut lui faire oublier au moins sa salat, au moins quelque chose, il veut lui embrouiller la salat, donc, alhamdoulilah, à chaque fois qu'elle se rappelle, elle fait des prières de yani, des soujouds de prosternation. Mais je lui conseille, inshallah ta'ala, avant de rentrer dans la salat, d'essayer de quoi? D'essayer yani, de s'asseoir un peu comme ça toute seule, de méditer un peu qu'elle va rentrer dans la salat, de se préparer un peu, na'am, psychologiquement, na'am, elle se prépare, et yani, elle rentre, inshallah, dans la salat. Même c'est mieux, par exemple, si c'est le dharoula, de faire la sunna qu'il y a avant. La sunna qu'il y a avant, pour que, yani, inshallah ta'ala, comme on dit, yani, comme on dit dans le langage yani, normal, on dit par exemple, on va se chauffer. Non, c'est comme on se chauffe un peu avant de rentrer, par exemple, à une compétition. Là, elle va yani, juste chauffer un peu yani, son esprit, pour qu'elle sache qu'elle va rentrer dans la salat. Et que pour qu'elle ne fasse pas, inshallah ta'ala, de distraction. Voilà, on s'échauffe. On s'échauffe, ça. Pour la personne qui parlait de rentrer ses enfants dans une école catholique, là, je voudrais lui dire que ça, c'est vraiment grave. Non, ça, il faut dire la vérité, que c'est vraiment grave pour deux choses au moins. La première, que ce n'est pas sans argent qu'on doit payer. Et que cet argent, bien sûr, qu'il va, comme tout le monde le sait, dans yani, le but de leur religion, les wahda. Et deuxièmement, que quelqu'un qui va à l'école catholique, qu'il le veuille ou pas, on est obligé d'apprendre à son enfant, non, ce qui a un rapport avec le christianisme, qu'il le veuille ou pas. Et je pense, Allah Ta'ala alam, si c'est comme en Algérie, je connaissais quelqu'un de la famille qui, étant jeune, il allait à une école catholique, déjà, quand il rentre, la première des choses qu'ils font, non, ils se mettent debout et ils font avec la main, ils font la croix. Ensuite, ils disent quelque chose comme ça en général. Ces cours-là ne sont pas obligatoires. Mais elle, musulmane, elle a parlé d'une école. Elle a dit, je rentre mes enfants dans une école catholique. Non, donc on va parler seulement de l'argent. Supposons que il n'y ait rien là-bas contre la religion. Non, l'argent, où va aller? L'argent, où va aller? C'est une école à caractère religieux. Ça, donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire cette école? Elle va employer cet argent dans yani, leur prêche. Dans leur prêche et leur fou. Donc, on va faire tout notre possible pour ne pas participer dans des choses nahm, qui vont à l'encontre de l'islam. Acheter des statues, acheter de la Bible, acheter, etc. Nahm, acheter des habits des moines ou je ne sais pas. Pour la personne qui a parlé de l'email, nahm, j'avais dit que ces temps-ci, inshallah ta'ala, nahm, que je ne répondais pas aux mails ces temps-ci. Mais que, inshallah ta'ala, quand j'ouvrirai la boîte, qu'elle pourrait, inshallah ta'ala, yani, envoyer. Et que maintenant, par exemple, elle peut envoyer ses questions via Paltalk. Via Paltalk. Bidnillah ta'ala. Naam. Et pour les cours d'arabe, la personne qui a parlé des cours d'arabe, si c'est seulement arabe, que la personne ne sort jamais de l'arabe, ce qui est un peu étonnant, ce qui est un peu étonnant. Mais si c'est vraiment arabe et que la personne ne sort jamais des cours d'arabe, tant que tu connais rien sur la personne, tu peux assister. C'est-à-dire que tu ne connais rien de mal d'elle, ni tu as entendu qu'on a dit d'elle qu'elle était de telle et telle secte. Non. Donc avec cette condition, tu n'as rien entendu d'elle et elle ne parle que arabe. Non. Dans ce cas, tu assistes. Mais si, yani, tu as entendu déjà parler de cette personne, qu'elle avait un faux minhaj ou un mauvais minhaj, non, ou bien que toi-même, tu as le moyen pour discerner ce qu'elle dit de faux, ce qu'elle dit de vrai, et que tu arrives à trouver. Non, elle a étudié chez Abdel Qadir al-Narqout, rahimahullah. Inch'Allah, toi, Inch'Allah, ta'ala, yani, tu as franchi cette personne tant que, naam, je connais cette personne, une personne, mashallah, naam, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes disent que on a étudié chez X et Y, naam, tu vas trouver même Salah 19. Salah 19, il a dit que j'étais chez Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz, il a dit tout cela, je les ai côtoyés. Allahu Akbar. Donc, tout le monde va dire que moi, je suis l'élève de tel et tel. Mais, dans la pratique, quand il est devant toi, des fois, il peut quoi? Il peut y aller un mohim. Je te donne, Inch'Allah, le conseil d'assister chez lui maintenant jusqu'à ce que tu trouves que quoi? Que, par exemple, cette personne n'est pas dans le minhaj. Non. Pourquoi? Parce que d'un côté, il a la tazkiya d'avoir assisté, d'être l'élève de Abdel Qadir al-Arnaouti. Et de l'autre, parce que tu n'as rien entendu encore de lui. Non. J'aimerais vous montrer une vidéo, cher. Tfadal.
Non, donc on va passer aux questions suivantes. Et comme d'habitude, je vous demande, si votre question est passée, baissez la main, Inch'Allah, afin que je puisse me repérer au niveau des mains levées. Jazakumullah khairan. Donc, question de BBA34. Assalamu alaikum, Cheikh. Hayakumullah. Une sœur demande, souvent dans ma salat, j'imagine la face d'Allah en face de moi. J'essaie de ne pas me le représenter dans mon esprit. Je lui associe un visage d'un être humain. Quel conseil pouvez-vous me donner pour avoir plus de concentration? Qu'Allah Ta'ala vous préserve de tout mot ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il vous compte parmi les gens du Firdaus, ainsi que ceux qui vous aiment en Allah. Question suivante. Question de Sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. A-t-on le droit de prêter un local à des tekfiris afin qu'ils fassent un vide-grenier? Cela ne rentre-t-il pas dans un hadith qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maudit celui qui héberge un innovateur, d'autant plus qu'on ne sait pas ce que ces tekfiris vont faire de l'argent qu'ils ont amassé? Les tekfiriyas a rusé en envoyant une autre personne demander le local. Le responsable de ce dernier a été averti 2 jours avant et n'a pas agi. Est-il dans notre devoir de faire une nasiha à la personne qui a prêté ce local, et quels sont vos conseils à ce sujet? Barakallahu fikum, Cher. Question de Abu Sulayman 13. Salamu alaikum, Cher. Qu'Allah vous accorde le Firdaus pour tous les cours que vous nous donnez et qui mènent vers la droiture d'Allah. Ma question est la suivante. J'ai contracté un crédit et accumulé des dettes. Donc crédit, plus facture de téléphone impayée, plus grosse facture d'électricité impayée. Tout cela s'est passé pendant ma période d'ignorance et d'égarement jusqu'à ce que Allah me guide sur Sirat al-Mustaqim. Alhamdulillah. Je voudrais savoir si je dois toujours rembourser ces dettes avant que l'on m'enterre, ou bien je ne suis plus tenu de rembourser ces dettes. Même si je rembourse ces dettes alors que je n'y étais pas obligé, serais-je châtié dans la tombe pour cela, jusqu'à qu'on rembourse à ma place? Cher, barakallahu fikum, d'apaiser mon âme en me répondant afin que je sache quoi faire. Question de Abu Daoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cher. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez, et qu'Allah nous accorde à tous le Firdaus. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait des péchés durant sa vie, surtout après la révélation? Si oui, a-t-on le droit de le prendre en exemple en disant que même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait des péchés? Question 2. Question suivante, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, je souhaite connaître la façon de faire le ghusl après les menstrues, afin de pouvoir faire la salat, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Muslim, est-ce que tu peux répéter la question de la sœur qui a parlé des dettes? Tfadal.
Naam, cher. Donc je répète, Inch'Allah. Donc c'était un frère. C'est un frère, Abu Suleyman. Donc il dit, j'ai contracté un crédit et accumulé des dettes. Donc crédit plus facture de téléphone impayée, plus grosse facture d'électricité impayée. Tout cela s'est passé pendant ma période d'ignorance et d'égarement jusqu'à ce qu'Allah me guide sur Sirat al-Mustaqim ou Alhamdulillah. Je voudrais savoir si je me dois toujours de rembourser ces dettes avant que l'on m'enterre, ou bien je ne suis plus tenu de rembourser ces dettes. Et il dit, même si je rembourse ces dettes alors que je n'y étais pas obligé, serais-je châtié dans la tombe pour cela jusqu'à ce qu'on rembourse à ma place? Cher, barakallahu fikoum, d'apaiser mon âme en me répondant afin que je sache quoi faire. Tfadal, cher.
مسلم تسمعوني؟ مسلم تسمعوني مسلم؟ نعم. سي كوا لا ديرنيير فراز؟ بارك الله فيك. سي كوا لا ديرنيير فراز؟ Il a dit que même si j'étais obligé. Comment ça? J'ai pas compris ça.
Naam, donc il dit, je pense qu'il a mal formulé la dernière phrase. Je pense qu'il a voulu dire, même si je ne rembourse pas ces dettes, même si, alors que j'y étais obligé. Wallahu alim, je pense que ça aurait plus de sens en disant comme ça. Même si je ne rembourse pas ces dettes alors que j'y étais obligé, serais-je châtié dans la tombe pour cela, jusqu'à ce qu'on rembourse à ma place? Wallahu alim, en la formulant de cette façon, ça a plus de sens. Tfadal, cher.
Je commence Allah Ta'ala par non, je commence par dire au frère Albani qui m'a envoyé un lien de sur une vidéo que bien sûr je ne peux pas voir en même temps et faire le cours et que bien sûr le débit chez moi est très faible. Il me faut peut-être une demi-heure là pour voir quelque chose qui a une ou deux minutes. Donc Allah Ta'ala sera pour la prochaine fois ma réponse. Dans les questions passées, il y avait une question que j'avais oubliée. Celle qui parlait, qu'elle voyait dans le rêve certaines personnes, que comme quoi, c'était ces personnes-là qui l'ont ensorcelée. Ensuite, dit la personne, comment qu'on doit faire par rapport au rêve, etc. Je dis, le Sunna ou Jama'a disent que on ne doit pas prendre de jugement des rêves. C'est-à-dire, si, par exemple, je suis un gouverneur, si, par exemple, je vois que je suis en train de, par exemple, quelqu'un a volé, ensuite, dans le rêve, je vois que, par exemple, il faut lui couper la main, ça ne veut pas dire que le lendemain, je vais lui couper la main puisque j'ai vu ça dans le rêve. Non. Contrairement aux soufis qui prennent la législation des rêves. Nous, on prend la législation, comme vous savez, hein, des jugements de Kitab ou Sunna. Kitab ou Sunna. Pourquoi? Car les rêves, comme vous savez, ça se divise en trois. Il y a le rêve qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le rêve qui est du shaitan. Il y a le rêve qui est de nous-mêmes. Du nafs. Non. C'est pour ça que le shaitan joue un grand, grand rôle dans les rêves. Et vous connaissez les hadiths. Où il est parti à cet homme, il lui a dit de tuer cette femme. Ensuite, il est parti à ses frères, il leur a dit que l'autre a tué votre sœur. Le shaitan joue beaucoup dans les rêves. C'est pour cela que on ne prend pas de jugement se basant sur les rêves. Mais si par exemple on voit que c'est cette personne dans le rêve, ensuite on la revoit une deuxième fois, une troisième fois, et qu'on a des doutes, on se dit peut-être c'est elle. Alors on peut faire quoi? On peut faire par exemple une petite enquête, et demander de celles qui connaissent bien cette personne, est-ce que d'habitude elle est connue pour la sorcellerie, et comme ça. Non, mais on ne doit pas directement l'accuser. Ou alors, si on l'a accusé, que ça soit alors seulement entre nous et nous-mêmes. Et on ne peut pas lui dire à elle, tu as fait ceci, cela, la preuve, je t'ai vu dans le rêve. Ça, on peut pas se le permettre. Alors, on le garde pour nous et on voit à l'avenir que ça va donner. Non. Pour la personne qui a dit quand je prie, non, il y a comme la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vois comme ça, yani en face de moi. Bien sûr, tout le monde sait que cela est impossible. Yani que la personne se met elle-même, elle s'imagine un visage ou là une figure ou là, Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya, et quelque chose lui dit que par exemple Allah est comme ça, alors que ça c'est impossible. Rien ne lui ressemble, nul ne lui ressemble, lui il ne ressemble à rien, non, c'est connu ça. Donc la personne, yani à chaque fois qu'elle a ça, si elle est dans la salat, elle est à l'intérieur de la salat, et elle a ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne un peu vers sa gauche et crache sur son épaule gauche 3 fois. Non, elle crache sur son épaule gauche en disant la doua de, yani, elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui le shaitan. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'éloigner de lui le shaitan. Non. Et comme ça, à chaque fois, jusqu'à ce que car comme vous savez, il y a un shaitan spécial qui vient spécialement pour la salat, pour embrouiller la salat. C'est ça sa fonction. Le prophète alayhi sallam avait dit qu'il s'appelait Khanzab. Il l'a même cité avec son nom. Ce qui prouve que, par là, même les shayatins, certains ont des noms. Pour le local qui a été prêté au takfiri. Naam. Moi, ce que je veux dire d'abord, c'est que quand quelqu'un qui ne se proclame pas des selfs, quelqu'un qui ne se proclame pas du minhaj, non, comment je vais quoi? Je vais lui en vouloir s'il fait ça, par exemple, avec Tekferi. Quelqu'un qui ne se proclame pas du minhaj peut faire plus grave que cela avec le Tekferi. Non, il peut yani faire plus grave et plus grave. C'est pour ça que ça devient grave quand la personne se proclame du minhaj. Il dit, moi, je suis un salaf, nous les salafs, etc. Dans ce cas, on va lui dire, subhanallah, tu te contredis. Mais si quelqu'un qui s'est jamais proclamé des salafs, ou quelqu'un qui est, yani, des gens de la masse, quelqu'un qui est simple, qui jamais n'a dit, je suis un savant, ou un talibain, ou la femme, ni je suis du minhaj, hein, comment yani, en vouloir à une personne pareille? Ces gens-là, il faut yani, faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide et leur enlève la poussière qu'ils ont sur les yeux. Et ça n'empêche pas qu'on peut yani, leur parler, leur dire yani, qu'est-ce que par exemple vous pensez du minhaj de takfir? S'ils disent c'est pas bien, on est contre, on dit alors pourquoi? Vous savez que X est des takfiri, vous l'aidez, vous ceci. Allah Ta'ala a dit, La ta'awanu al-ithm al-udwan. Allah Ta'ala a dit, ne vous entraidez pas dans la turpitude et les péchés. Et comme ça, c'est comme ça que je pense moi. Quand une personne fait la faute, je vois d'abord qui est cette personne. Si c'est une personne des gens de la masse ou là, tout ce que je peux faire, c'est lui donner une nasiha au maximum. Mais si c'est quelqu'un qui se proclame des salaf, etc., c'est là que ça devient yani, grave. Wallahu a'lam. Naam. Car leur donner un local ou yani, les aider dans une chose ou dans une autre, c'est quoi? C'est sans le vouloir, c'est combattre la sunna. Combattre le minhaj. Qu'on le veuille ou pas. Naam. Pour la personne. Après celle-là, il y a une personne. Je ne sais pas, c'est écrit chez moi. Je crois que c'est écrit date. Est-ce qu'on a parlé? Est-ce qu'il y a une question où il y a le mot date? Dis-moi, Moustine. Il y a une question où il y a le mot date? Je pense pas. D'ailleurs, le mail. Non, le mail, j'ai répondu tout à l'heure. J'ai répondu tout à l'heure. Date en février. Pas celle-là. Al-Muhim. Il y a une autre question où il est dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des péchés? Je lui ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kullu bani Adam khatta. Et khayrul khatta'in tawwabun. Il a dit que tous les êtres humains faisaient des péchés. Que le meilleur d'entre eux, ce sont ceux qui se repentent. Mais Ahl Sunna ou Jama'a, attention, la Sunna ou Jama'a ont dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam, les messagers, ne font que les petits péchés, ne font jamais les grands péchés. Les grands péchés, l'alcool, le vol, la zina, tout cela, jamais un messager ne fait une chose pareille. Et, astaghfirullah, je dis astaghfirullah, s'il voulait faire, Allah Ta'ala l'en empêcherait. D'ailleurs, il ne voudra jamais le faire. Car vous savez que le messager, alayhi sallam, deux fois, on lui a ouvert sa poitrine et on a pris son cœur, on l'a lavé et on lui a enlevé ce que. Où le shaitan, où le shaitan dans notre cœur a une influence. Le shaitan a une influence. Hein? Il peut, yani, nous toucher un peu comme ça dans notre cœur, nous faire des ouest, etc. Mais le prophète, il a cette faveur que on lui a lavé son cœur deux fois. Et on lui a jeté quelque chose comme ça, un morceau de chair noire. On a jeté comme ça par terre. Et Jibril a dit que c'était ça, le truc du shaitan. Donc lui, alayhi sallam, il n'a pas ça. Alhamdoulilah. Donc, aucun messager ne fait un grand péché. Par contre, les messagers font les petits péchés, et les savants disent, les petits péchés, rire yani pas comme par exemple voler une date. Voler une date, c'est un grand péché ou un petit péché? C'est un petit péché. Les messagers ne font pas ça. C'est-à-dire, même les petits péchés, ils ne font pas des petits péchés, genre voler une date, genre yani. Qui montrent qu'ils ont un mauvais comportement. Jamais. Non. Voilà en ce qui concerne la position de Al-Sunnah, en ce qui concerne les péchés des messagers. Et enfin, pour la sœur qui dit, il reste deux questions. Pour celle qui a dit, comment faire le ghusl pour la femme qui vient de terminer ses menstrues. Je dis très vite. Elle commence par se laver les parties intimes, de devant et arrière. Ensuite, elle se lave les mains. Elle se lave les mains. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait le wudu. C'est comme si elle allait faire le wudu pour la salat. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle arrive à ses cheveux, ensuite ses oreilles, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste ses pieds. Elle ne fait pas ses pieds. Elle arrête là. Ensuite, elle commence par sa tête. Et elle descend. Si elle a des tresses, elle doit se détresser. Si elle a des nattes, elle doit les ouvrir. Pour la janaba, elle n'est pas obligée de les ouvrir. Mais pour les menstrues, elle est obligée de les ouvrir, les nattes. Ou la détresse. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend le côté droit et elle descend. Ensuite, elle remonte côté gauche et elle descend et elle termine par ses pieds. Comme ça, en général, inshallah ta'ala. Pour le fait, naam, de celui qui a des dettes, il a dit si je rembourse, etc. Naam, quand une personne a contracté ses dettes, elle doit rembourser ses dettes. Sauf si ses dettes, c'était quelque chose, par exemple, de haram. Comme des dettes d'alcool ou dettes de drogue, ou là, dans ce cas, elle peut ne pas les rembourser, sauf si elle a peur. Si elle a peur, par exemple, de quoi? Par exemple, d'être emprisonnée ou quelque chose comme ça. Mais si c'est des choses normales, comme des appels téléphoniques, comme l'électricité, l'eau, etc., ces dettes-là, elle doit faire son possible. Pourquoi? Pour les rendre, Inch'Allah Ta'ala, avant de mourir. Si jamais elle meurt, si jamais elle meurt, elle ne paye pas ses dettes. Et qu'elle avait fait des efforts pour payer ses dettes. Elle a fait des efforts. Celle-là, je la rassure. En lui citant le prophète, en lui citant le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, authentique. Qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit quoi? Il a dit que toute personne qui a contracté des dettes et qui avait la niyyah de les rendre, non. Si jamais yani elle meurt, que c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam, qui le défendra yawm al-qiyamah. Masha'Allah, comme hadith. Masha'Allah, toute personne qui a contracté des dettes et qui a essayé ici, et avait la niya de les rendre, ensuite elle est morte sans les payer, et personne ne l'a payé à sa place, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera son tuteur, son wali là-bas. Il a dit c'est un awaliyo. Et je vous annonce un deuxième hadith authentique aussi, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que toute personne qui a contracté des dettes et que elle avait la niya, l'intention de les rendre, que Allah Ta'ala l'aidera à les rendre ici, dans cette vie avant de mourir. Toute personne qui a contracté des dettes et qu'elle avait la niya de les rendre, alors cette personne, Allah Ta'ala l'aidera de les payer ici. Le frère a dit qu'une dette de riba, est-ce qu'il doit rembourser? La riba, c'est quoi? La riba, c'est quoi? La riba, c'est par exemple, je te prête 100 euros et je te dis rends-moi 120. Vous comprenez l'usure? Je te prête 100 et je te dis rends-moi combien? Rends-moi 120. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire donc je lui rends pas les 120, alhamdoulilah. C'est pas comme ça. Tu lui rends les 100 et tu lui rends pas les 20. Tu lui dis tu m'as prêté 100, voilà tes 100. Les 20, je les rends pas, c'est haram chez nous. Sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu as peur de la prison ou du tribunal ou des problèmes, des grands problèmes. Si tu as peur des grands problèmes, ça c'est autre chose. Mais si tu sais que tu n'as pas peur des problèmes, Naam, tu lui dis je te rends seulement ton capital, pas les intérêts. Tafadhal, Inch'Allah, les autres questions.
Naam, cher, donc la sœur Sana, elle a écrit, elle a rajouté quelque chose sur sa question. Elle dit, la personne qui a prêté le local s'est fait duper à la base. Il ne savait pas que c'était elle. On l'a averti 2 jours avant, mais après l'avoir su, elle n'a rien fait, alors qu'il était contre ses idées de tekfir. Ce que je voudrais, c'est lui faire un mail avec des nasiha pour lui montrer qu'il a eu tort, afin que cela ne se reproduise pas. Car si elle a pu passer, elle va. Donc, car si elle a pu. Car si elle a pu passer, elle va redemander le local. Je voudrais savoir quoi lui donner comme adilla, comme preuve sur le fait qu'il n'avait pas accepté, tout au moins refusé, après l'avoir su. Barakallahu fikoum, cher. Et la sœur de l'étranger, cher, elle a dit que samedi, vous lui avez dit que vous donnerez une réponse ce mercredi par rapport au mail. Vous lui avez demandé c'était quelle date? Et l'objet, vous lui avez demandé l'objet du mail et vous lui avez dit que vous regarderez le lendemain pour donner une réponse le mercredi. Wallahu a'lam. Atfadl cher.
Naam, pour la réponse du mail, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai regardé, j'ai trouvé que la personne m'avait envoyé une lettre et je lui ai répondu. À moins que c'était une autre. À moins que c'était une autre. Naam, si on parle de la même personne, si on parle de la même personne, hein, j'ai lu son mail et je lui ai répondu. Si c'est une autre, il faudrait que on soit d'accord sur la personne. Femme musulmane. Peut-être que il y a 2 personnes qui sont rentrées dans le jeu. Je ne sais pas. Non. Pour ensuite, pour la sœur Umsana, non, elle dit que qu'est-ce qu'elle devrait lui dire, etc. pour lui envoyer le mail. Oula, franchement, je ne sais pas. Moi-même, il faut que je réfléchisse. Moi-même, il faut que je réfléchisse. Mais, si j'étais moi à sa place, non, je lui aurais parlé, c'est mieux. Mieux que de lui envoyer mail, etc. Non, je lui aurais parlé pour lui dire que, yani, que le musulman ne doit pas se faire mordre 2 fois quand vous connaissez le hadith. 2 fois, yani, ne doit pas être pris 2 fois, disons, dans le même piège, comme c'est dans le hadith. Naam. Et que la prochaine fois, il devrait, yani, bien prendre garde pour qu'il ne tombe pas dans la même faute et qu'elle ne lui joue pas un autre tour. Même si d'ici là, Inch'Allah Ta'ala, moi, je vais, yani, me rappeler quelques dalils. Je lui en ferai part, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, tafadhal.
Non, donc la question suivante, Inch'Allah. La question de Al-Hikma 31. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question porte sur les ablutions. Si je porte du vernis à ongles après avoir fait mes ablutions et que je garde celle-ci jusqu'au Maghreb et qu'à Salat al-Isha, je fais les ablutions sur le vernis. Est-ce que mes ablutions sont valables? Est-ce que la règle est la même que le mash sur les chaussons? L'essuyage sur les chaussons. Question de Adam. Question sur la prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Jusqu'à quand dans la nuit peut-on faire salat al-Isha? A-t-on le droit de dormir après le Maghreb et de se réveiller juste avant le Fajr pour la faire? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous préserve, ainsi que ceux qui vous aident sur la room, ainsi que tous ceux qui sont présents à vos cours. Donc, question suivante. Non, donc, Ahlus Sunna wal Jama'a, Inch'Allah, changez la question. Barakallahu fikoum. Lamia, salam alaikum. Mon fils a bientôt 3 ans. Je voudrais lui apprendre le Coran. Y a-t-il une méthode particulière pour apprendre plus facilement? Barakallahu fikoum. Sur le InSpeak, Inch'Allah. Donc les personnes qui sont déjà passées, baissez la main, Inch'Allah. Je ne sais plus où je suis arrivé. La question de Zakaria 72. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous élève en degré. Un frère dit, je vis en HLM. Walhamdulillah. Et walhamdulillah, je gagne bien ma vie. Le problème, c'est que je vais dépasser le plafond qui me permet d'avoir un logement HLM. Je devrais donc quitter ce logement pour un privé. Est-il possible d'avoir recours au crédit bancaire pour acheter une maison? Barakallahu fikoum, cher. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Question suivante. Porte 19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne les ablutions. Une personne incontinente a la peau sèche et a aussi de l'eczéma. Mouiller sa peau presque 5 fois par jour n'arrange pas sa peau. Elle vous demande si c'est possible de faire le tayammum et si oui, avec quel objet? Barakallahu fikoum. Fadal cher. Répète les deux dernières. Non, donc je répète, Inch'Allah. Les deux dernières que je viens de lire, cher, ou bien c'était les deux dernières de InSpeak? Celle sur le prêt et sur les ablutions? Donc les deux dernières de Paltalk, c'est ça? Alors je vais répéter, Inch'Allah, après le vernis. D'accord, cher. Jusqu'à quand dans la nuit peut-on faire salat el Isha? A-t-on le droit de dormir après le Maghreb et de se réveiller juste avant le Fajr pour la faire? Barakallahu fikoum, cher, qu'Allah vous préserve, ainsi que ceux qui vous êtes sur la room et tous ceux qui sont présents à vos cours. Et l'autre, c'était par rapport à l'apprentissage du Coran sur l'enfant de 3 ans. Donc je la réouvre, Inch'Allah. Donc elle demandait s'il y avait une méthode particulière afin d'apprendre le Coran plus facilement. Tfadal cher.
Muslim, Rakhina Muslim. Tu m'as donné le micro ou quoi? Tu as terminé, tu parlais d'une sœur qui avait un problème avec un enfant de 3 ans. Ensuite, tu n'as pas lu la question.
Non, cher, j'ai lu la question. Je pense que vous avez peut-être des problèmes de connexion. Inch'Allah. Donc je répète la question. Donc c'était de Lamia. Salam alaikum. Mon fils a bientôt 3 ans. Je voudrais lui apprendre le Coran. Y a-t-il une méthode particulière pour apprendre plus facilement? Barakallahu fikum. Tfadal cher.
Walaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour la sœur qui a parlé du vernis et que après avoir fait les ablutions, elle mettait le vernis. Non? Ça c'est permis, il n'y a pas de problème. Mais après, quand c'est le moment de la salat, si elle a perdu les ablutions, elle ne peut jamais faire les ablutions sur le vernis. Donc, elle va être obligée d'enlever encore une fois le vernis pour faire les ablutions. Et ça n'a rien à voir, ni ça ne ressemble au fait d'essuyer sur les chaussons. Non. Pour la personne qui avait dit qu'elle avait des problèmes de peau et qu'elle ne pouvait pas faire tout le temps le wudu, dans ce cas, lorsque de temps en temps elle fait le teimoum, elle le fait avec quoi? S'il y a de la terre, de la terre. S'il n'y a pas de la terre, elle mouhim. Le ciment, le carrelage, non, la dalle de sol, carrelage, ciment, les briques, tout ce qu'il y a à la maison, de préférence, quelque chose qui ne soit pas peint. Quelque chose, c'est pas comme le mur qui est peint. Malgré que Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit qu'on pouvait faire le teimoum sur le mur, même s'il est peint. Mais je préfère par exemple le carrelage. Le carrelage, c'est pas de la peinture, c'est mieux. Ou encore la dalle de sol, non, la faïence. Taïb, pour le crédit pour la maison, ce n'est pas permis. Les savants ont dit, l'usure a dit, si elle était possible, elle serait vraiment dans la grande nécessité. Une personne qui vit avec ses enfants sous une tente. Sous une tente. Non. Et la pluie, les averses, l'orage, la neige, celle-là, si elle va faire un crédit pour avoir une maison, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Non. Mais, juste pour acheter une maison plus belle, plus grande, plus ceci, les savants ont dit non. En ce qui concerne Salat al-Isha, Salat al-Isha se termine à la moitié de la nuit. Attention à ceux et celles qui se trompent et qui croient que Salat al-Isha, c'est jusqu'à Salat al-Fajr. Salat al-Isha, c'est au milieu de la nuit. Non. Si c'est minuit, ou là un peu avant, ou là juste un peu après, ça se termine le temps de Salat al-Isha. C'est-à-dire tu comptes du Maghreb combien qu'il y a, et ensuite tu divises par deux. Vous savez comment qu'on fait pour savoir quand est-ce que se termine Salat al-Isha? Non. On va prendre la moitié de la nuit. La moitié de la nuit, comment qu'on va savoir? On va voir quand est-ce commence le Maghreb. S'il commence par exemple le Maghreb, c'est à 18h. Non, c'est à 18h. Et le Fajr, par exemple, disons c'est à 6h du matin. Et donc de 18h à 6h du matin, combien qu'il y a? Il y a 12h. La moitié de 12h, c'est combien? C'est 6. Donc, je commence à compter à partir du Salat al-Maghrib, j'ajoute 6h. 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, minuit. Donc minuit, c'est terminé Salat al-Isha. Celui qui l'a fait après, il l'a fait avec des péchés, sauf s'il a oublié. Maintenant, pour la personne qui veut dormir après le Maghreb, si elle veut dormir après le Maghreb, elle peut. Mais à condition qu'elle se réveille avant la moitié de la nuit pour faire Salat al-Isha. Non. Enfin, pour l'enfant qui a 3 ans, qui voudrait lui apprendre le Coran, non, comment qu'elle fait? Est-ce qu'il y a une méthode? Je ne sais pas exactement, mais tout ce que je sais, c'est que quand vraiment on veut que notre enfant apprenne le Coran, la plupart du temps, ce n'est pas nous qui pouvons lui apprendre. Mais quand il a quelqu'un où il va apprendre chez lui. C'est comme ça que la plupart des savants ont appris. Car c'est difficile que l'enfant apprenne chez lui avec son père ou avec sa mère. Non. Il apprend un peu, ensuite il commence à rire, ensuite il lui dit... j'ai pas envie, ensuite lui dit je vais aller aux toilettes, ensuite lui dit je vais dormir, ensuite il veut la frapper, ensuite il monte sur ses cheveux, mais je sais pas ce qu'il fait. Non. Mais quand il est chez un cheikh, là bien sûr il a peur, il tremble et non, il apprend yani, malgré lui. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. Mais je ne sais pas s'il y a spécialement yani, c'est-à-dire les savants disent qu'on commence yani, par lui apprendre en lui faisant réciter. C'est l'une des meilleures façons. C'est-à-dire, je dis une chose, et lui, il la répète. Je dis, il répète. Ensuite, je passe au deuxième verset. Je dis, il répète. Ensuite, je joins les deux versets. Je joins les deux, et il les répète. Je passe au troisième. Quand il apprend bien, je lui ajoute le quatrième. Quand il apprend bien le quatrième, je révise. 1, 2, 3, 4 à la fois. 2 fois, 3 fois. Et comme ça. Tafadhal, Inch'Allah. Avant d'oublier, Muslim. Avant d'oublier, musulman, tu m'entends? Demande à la sœur demande à la sœur qui a dit qu'elle m'a envoyé le mail et qu'elle n'a rien reçu. Demande-lui qu'elle te redonne. Elle te redonne son, comment s'appelle, son objet ou bien comment s'appelle son pseudo. Elle te le donne en PV. Et tu me le donnes aussi en PV. Tchallah.
Non, chérie, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Donc, elle me l'a envoyé, je vais ouvrir mon PV. Ou alors, ouvrez le PV, chérie, je vous l'envoie, Inch'Allah. C'est bon, alhamdoulilah, le PV, il est ouvert. Non, mais je voulais juste revenir sur une petite règle, Inch'Allah. Donc, ce soir, j'ai précisé aux frères et sœurs que les questions, c'était uniquement sur la Aqidah, le Minhaj, ou alors la Salat, ou alors le cours d'aujourd'hui qui faisait partie de la Aqidah. Et cette question sur le Coran, je l'ai posé par rapport à l'apprentissage, car l'apprentissage, il inclut directement sa compréhension et son application. Le fait de l'apprendre sans le comprendre, sans l'appliquer, c'est pas vraiment utile. C'est pour ça que je l'ai rentré dans la catégorie Aqidah. Voilà, c'est pour éviter que certaines personnes pensent que je suis injuste lorsque je refuse leurs questions. Jazakumullah khayran. Donc je continue les questions, Inch'Allah. La question de Minhaj al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hayakum Allah. Chère une sœur demande. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, elle a retardé la salat al-Isha lorsqu'elle a voulu prier. Elle a remarqué qu'elle venait juste d'être indisposée. La question est la suivante. Comment doit-elle rattraper cette salat? Doit-elle attendre la salat al-Isha pour la rattraper? Ou bien doit-elle la faire dès que cela est possible, en sachant qu'elle a l'habitude de prier les prières surérogatoires, les 12 rakaat? Doit-elle aussi rattraper les 2 rakaat qu'elle devait faire après cette salat? Jazakumullah khayran, qu'Allah vous augmente en science. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de Mariam 831. Donc le PV il est bloqué. Je n'ai pas reçu la question. Et j'ai précisé donc que toutes les personnes qui lèvent la main, Inch'Allah, faites en sorte que votre PV me soit ouvert. Donc là, il est toujours bloqué. Khair, Inch'Allah. On va passer à la question suivante. Assalamu alaikum, ya Sheikhana, ahsanallahu ilaykum. Nous avons vu dans le livre L'Umma al-I'tiqad, qu'il ne faut pas interpréter les textes. Comment comprendre le hadith 38 des Arba'in Nawawi, où Allah dit, lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il agit, et son pied avec lequel il marche. Jazakumullah khayran. Question suivante. Donc j'ai précisé qu'il faut me renvoyer juste des questions sur la Aqidah, le Minhaj ou la Salat. Barakallahu fikoum. Donc question de Alhamdulillah 4. Assalamu alaikum cher. Lorsque je fais la Salat avec mon mari, m'est-il permis de faire l'adhan? De plus, la semaine dernière, je vous ai posé une question par rapport au fait que j'aide des sœurs dans des démarches. J'utilisais pour cela la loi des kuffars. Vous avez dit de vous demander la permission de prendre votre adresse mail pour vous envoyer l'adresse de mon blog. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous consacrez et qu'il vous accorde, à vous et votre famille, le paradis. Donc ici, alhamdoulillah, est-ce que vous demandez en fait à Cheikh de vous donner l'adresse mail? Est-ce que c'est ça que vous demandez dans la deuxième partie? Donc je passe sur le InSpeak. Donc question de Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Hayyakar Rahman, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous récompenser par le bien et de vous rajouter de la science. Allahumma salli ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes. Ma question concerne les hadiths qui parlent que le paradis est au pied de la mer. Pourriez-vous me dire, jazakumullah khayran cher, si le hadith qui dit en substance que le paradis est au pied de la mer, est-il sahih? Et le hadith qui dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, à un homme, retourne près de ta mère car le paradis est à ses pieds. Est-ce que ce hadith existe bien? Et si oui, est-ce que pour cet homme, Est-ce pour cet homme uniquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ou est-ce que ce hadith est pour tout le monde en général? Jazakumullahu khairan pour votre réponse, cher. Puisse Allah azawajal vous préserver de tout mal. Question suivante. Question de Arul Maïssa. Assalamu alaikum wa rahmatullah ya cher. Hayakum Allah. Ma question concerne la prière. Que doit-on faire lorsque l'on récite deux fois la même sourate durant les deux premières rak'a? Doit-on effectuer les deux prosternations de la distraction? Si oui, s'effectue-t-elle avant ou après le teshahhud? Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaykum. Tfadal cher.
Mousseline, barakallahu fik, répète cette dernière question, celle de la salat, tfadhal.
Non, cher, je la répète, inshallah. Ma question concerne la prière. Que doit-on faire lorsque l'on récite deux fois la même sourate durant les deux premières rak'at? Doit-on effectuer les deux prosternations de distraction? Si oui, s'effectue-t-elle avant ou après le teshahhud? Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaykum. Tafadhal cher.
Mousseline, est-ce que tu veux dire lire la même sourate dans les deux rak'at ou bien lire la même sourate dans la même rak'a, une rak'a? Une rak'a, on lit les deux sourates les mêmes ou bien deux rak'at, dans les deux rak'at, on lit les deux sourates qui se ressemblent? Qu'est-ce que tu veux dire?
Dans la question, elle a dit dans les deux rak'at. Donc je pense, moi je l'ai compris comme ça, c'est-à-dire première rak'a, sourate al-Fatiha, puis une sourate, et dans la deuxième rak'at, sourate al-Fatiha, et la même sourate qu'elle avait dit dans la première rak'a. Allahu a'lam, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Tfadhal cheikh.
Naam, bismillahirrahmanirrahim. En ce qui concerne la personne qui a dit qu'elle avait retardé un peu Salat l'Isha, ensuite quand elle a voulu la faire, elle a trouvé qu'elle était indisposée. Celle-là, que doit-elle faire? Elle attend qu'elle se purifie de ses menstrues, prenne sa douche, et alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape Salat l'Isha pour quelques-uns des savants. Car d'autres ont dit que non. On dit que elle n'a rien fait de mal. C'est Allah qui a lui donné les menstrues. C'est pas elle. Et elle voulait. Mais la râle, c'est des menstrues qui sont venues. C'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, de préférence, elle rattrape Salat l'Isha. Il a dit, de préférence, elle rattrape Salat l'Isha. Donc, elle rattrape pas la sunna qui est avant, ni qui est après. Mais elle rattrape seulement Salat l'Isha par prudence, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, donc puisqu'on parle toujours de salat, si une personne va lire deux sourates, va dire deux sourates qui se ressemblent dans la même salat. Je donne un exemple. Je vais faire salat al-Subh. Dans la première, je lis Fatiha et je lis, par exemple, Qul huwa Allahu Ahad. Ensuite, dans la deuxième raka, je vais lire Fatiha. Et je vais lire Qul huwa Allahu Ahad. Est-ce que j'ai des problèmes? Est-ce que j'ai des prosternations pour avoir fait cette chose? Des prosternations de distraction? Bien sûr que non. Pourquoi non? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il nous a montré que ça se faisait. Une fois il était en voyage, il a fait Salat Subh, il a lu deux fois Surat Zilzala. Il a zulzilatil ardu zilzala. Il l'a lu deux fois dans la première rak'at. Et dans la deuxième rak'at, il s'est levé, il a lu le Fatiha, et il a lu Idazul Zilatil Ardu Zilzala. Donc deux fois, donc c'est permis, c'est une sunnah. Walhamdulillah. Donc il a dit c'est permis, et il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de. D'ailleurs, je me rappelle une fois, j'étais imam, j'ai dit avant de faire la salat, j'ai dit attention aujourd'hui, je vais vous faire quelque chose, vous allez yani, remarquer quelque chose d'anormal. Mais je n'ai pas dit quoi? C'était Salat al-Maghrib. J'ai lu dans la première raka'a al-Fatiha et j'ai lu Ida Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Ensuite, j'ai lu dans la deuxième raka'a al-Fatiha et à voix haute, bien sûr. Et j'ai lu Ida Zulzilatil Ardo Zizalaha. Ensuite, j'ai lu la troisième, Fatiha, seulement à voix basse. Et bien sûr, ils ont compris que je l'ai fait exprès, c'était pour leur montrer que ça se faisait et que le messager l'a fait, alayhi sallam. Si je l'avais fait directement sans les avertir, ils m'auraient tous dit peut-être Subhanallah, Subhanallah, pour me dire que vous êtes en train de lire la même sourate. Vous comprenez? Alhamdulillah. Pour le hadith qui dit le paradis se trouve sous les pieds des mers. Il y a un hadith, on entend beaucoup de gens dire ça. Al-Jannatu tahta aqdami al-ummahat. Al-Jannatu tahta aqdami al-ummahat. Je voudrais que vous compreniez bien ce que je vais dire pour qu'il n'y ait pas malentendu. Je voudrais que vous compreniez bien ce que je vais dire pour qu'il n'y ait pas malentendu. Un hadith qui dit le paradis se trouve sous yani, les pieds des mers n'existe pas. N'est pas authentique. Il n'y a pas un hadith authentique qui dit le paradis se trouve sous les pieds des mers. Mais il y a un hadith authentique où le prophète alayhi sallam a dit à quelqu'un, il lui a dit va auprès de ta mère, elle ne va pas au djihad, va auprès de ta mère, car le paradis se trouve au pied de sa mère, au pied de ta mère. Naam. Donc ce hadith est authentique. Et ce hadith n'est pas spécifique à qui? N'est pas spécifique à cet homme. C'est-à-dire que chaque mère a un paradis sous ses pieds. Donc ce que je veux que vous compreniez, c'est que si quelqu'un dit, le paradis se trouve sous les pieds des mères, on lui dit ça. En ce sens, c'est vrai. Mais il n'y a pas un hadith qui dit le paradis se trouve sous les pieds des mers. Voilà yani, la différence. C'est une chose, yani, je ne sais pas si vous pouvez le comprendre. Il n'y a pas un hadith qui dit comme ça, le paradis est sous les pieds des mers. Non, il n'y a pas. Mais il y a un hadith qui a dit à quelqu'un que le paradis se trouvait sous les pieds de ta mère. Donc, le sens que comme quoi le paradis se trouve sous les pieds des mers est vrai. Mais le hadith en lui-même, il n'est pas vrai. Je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Si vous n'avez pas compris, alhamdoulilah, je peux le réexpliquer, inshallah ta'ala. La femme qui a dit, est-ce que, en faisant la salat avec mon mari, je crois qu'elle a dit comme ça, elle a dit, est-ce qu'on peut faire l'adhan? L'adhan, naam, comme l'homme peut le faire, la femme peut le faire. Surtout si elle est seulement entre des sœurs, naam, ou bien seulement avec son mari. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et de Abdullah ibn Omar, le compagnon, radiyallahu ta'ala, nous, auquel on lui a dit, ce hadith se trouve dans Silsila Sahiha, tome numéro 1 de Cheikh Al-Albani. On a dit à Abdullah ibn Omar, est-ce que la femme fait le adhan? Est-ce que la femme fait le adhan? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, est-ce que moi je vais l'empêcher de faire dhikr Allah? Moi je vais l'empêcher d'invoquer Allah? Il a dit comme ça. Ça veut dire qu'elle peut le faire. Moi je vais l'empêcher d'invoquer Allah. Non, mais beaucoup de savants ont dit que c'était pas obligé pour la femme de faire le adhan. Non, c'était pas obligé, elle peut faire la prière directement en faisant seulement l'iqama. Et d'autres disent même sans iqama. D'ailleurs, reste la question sur le hadith dont on vient de poser la question, où il est dit que yani, je suis sans sa vue, son oui, sa main, son pied. Vous savez le hadith Qudsi. Allah Ta'ala, en parlant yani, d'une personne, attendez, je me rappelle, je suis le hadith, comment il dit, parce que moi je le connais en arabe, bien sûr, où le hadith. La question ici, c'est comment. Qu'est-ce qu'il y a, cher Muslim, tu viens d'écrire cher, qu'est-ce qu'il y a, j'ai pas compris. Muslim. Et maintenant vous entendez? Maintenant vous entendez, Muslim? Naam. J'ai dit qu'il y avait un hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses, yani les adorations obligatoires. Ensuite, il dit que et il n'y a pas une chose qui rapproche de moi comme les adorations surérogatoires. Nafila. Naam. Il a dit, quand mon serviteur fait les nawafil, naam, je l'aime. Et si je l'aime, je deviens son oui avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il prend et son pied avec lequel il marche. Et s'il me demande des choses, je lui donne. Et s'il m'invoque, je lui réponds. Et s'il a besoin de choses, je lui exauce. C'est comme ça. La personne a posé la question, elle a dit, comment Allah Ta'ala devient la vue de quelqu'un, comment qu'il devient son oui, comment qu'il devient sa main, il devient yani, son pied. Elle a dit, les salafs yani, laissent les choses comme ça à l'apparence. Or, comment yani, expliquer ce hadith? La réponse est très simple, inshallah ta'ala. On dit quoi? On dit ce hadith a été expliqué par un autre hadith. Ce hadith a été expliqué par un autre hadith authentique. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, naam, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِ بِهَا. Il a dit, فَبِي يَسْمَعْ وَبِي يُبْصِرْ وَبِي يَبْتِشْ وَبِي يَمْشِ. Il a dit, c'est de moi, naam, que quoi, il marche, de moi qu'il voit, de moi qu'il prend, de moi qu'il entend. Elle dit deux mois, elle dit bi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une preuve que il ne devient pas, Allah Ta'ala ne devient pas nous. Le créateur ne devient pas créature. Il a dit, mais c'est deux mois, c'est-à-dire avec moi, de ma cause. De ma cause, il voit. De ma cause, il prend. De ma cause, il entend. Et de ma cause, il marche. Ici, donc, c'est une preuve claire que voilà ce que a voulu Allah Ta'ala dire. Il n'a pas voulu dire que je serai sa main, c'est-à-dire que sa main va se... Moi, je vais être sa main, et moi, je vais être son pied, dans le sens apparent comme ça. Mais il a voulu dire que c'est moi qui vais guider sa main. Comme il l'a dit dans l'autre hadith, il a dit, c'est de moi qu'il marche, c'est de moi qu'il voit. C'est-à-dire, c'est moi qu'il guide pour voir, pour marcher, pour... Naam. J'espère, inshallah ta'ala, que le hadith est clair. Wallahu ta'ala alam. Le deuxième hadith, naam. Tfadlal.
Naam, cher, et la sœur demande l'autorisation si elle pouvait vous envoyer son blog par mail. La sœur qui était juriste, qui travaillait, qui était avocate à Afouane, qui était avocate avant de se convertir. Alhamdulillah. Donc je vous donnerai l'adresse du cher, Inch'Allah. Donc je passe aux questions suivantes. Donc Mariam, 831, le PV est toujours bloqué. Donc on passe directement aux autres personnes. Donc, question de Kouwatoun. Salamu alaikum, cher. Donc, la question porte sur Salat al-Jumu'ah. Salamu alaikum, cher. Je suis toujours bloqué lorsque les imams font dua pendant Jumu'ah. Doit-on dire Amin à voix haute à chaque fois qu'ils font dua? Et doit-on dire Amin lorsqu'ils font dua pour des gens en échange d'argent? Et aussi, que faire lorsque l'imam pendant Jumu'ah arrive à la moitié de sa khutbah et dit Wastaghfirullah li wa lakum et prend quelques secondes de pause. Barakallahu fikum cheikh. Et comme on sait, cheikh, que vous avez fait la thèse sur le Jumu'ah, Inch'Allah, vous pourrez nous donner une très bonne réponse. Bidnillah. Question de Abdullah. Salamu alaikum. Alors, le frère voudrait savoir quelle est la sentence vis-à-vis de la désobéissance aux parents, notamment sur le fait de ne pas vouloir se marier. Il dit, est-il une désobéissance aux parents de ne pas vouloir se marier, et quelles sont les conséquences vis-à-vis d'Allah? Question suivante. Oumou Hawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikhouna, Hafizakumullah. Ma question porte sur la prosternation de distraction. Doit-on refaire un teshahoud lorsque l'on fait la prosternation de distraction après le salam? Qu'Allah augmente votre science et vous élève en degré pour les cours que vous donnez. Question sur le InSpeak. Karima 99. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc elle voudrait savoir par rapport à un jugement qui serait dans l'au-delà, cher. On m'a dit que soi-disant, si une personne dit une grossièreté, donc une insulte ou autre, alors elle doit refaire ses ablutions. De plus, à chaque grossièreté prononcée, la personne risquerait d'être 70 ans en enfer. Je n'ai pas lu une telle chose, donc je voudrais connaître votre avis sur ça. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Donc, question de Samir. Alors, question qui est un peu longue, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikoum ya Cheikhana, pour ce que vous faites pour nous. Nous sommes plusieurs personnes à être devenus modérateurs et administrateurs sur un forum de Ruqya, ouvert par un frère qui s'est déclaré Raqi. Pensant que cette Ruqya était charia, nous n'avions aucun problème à orienter les gens vers lui. Avec du temps, nous avons remarqué plusieurs pratiques qui nous mettent des doutes quant au fait que sa ruqya est permise. Parmi les choses qui nous ont mis les doutes, voici donc les suivantes. Premièrement, il fixe un prix de 50 euros par personne, peu importe qu'elle soit malade ou non. Deuxièmement, il fait des vidéos de ses séances afin de montrer comment cela se passe. Troisièmement, il diffuse son numéro et son adresse mail pour que les gens le contactent. Quatrièmement, il a mis en place sur un forum une partie commerciale où il vend les produits de traitement coranisés qu'il envoie par la poste. Cinquièmement, il pose des diagnostics suite à des réponses à un questionnaire. Sixièmement, il fait la ruqya via InSpeak et aussi par webcam. Septièmement, il met en ligne les audios de ruqya qu'il enregistre. Il est déclaré officiellement raqi et paie des impôts. Pour cette activité, il dit qu'il fait cela pour se couvrir au cas où il y aurait un accident pendant sa ruqya. Huitièmement, il a ouvert une section interprétation des rêves où les gens racontent leurs rêves et cauchemars afin qu'il y donne l'interprétation. Nous avons cru au départ qu'il était bien de l'aider dans tout cela, mais nous avons de plus en plus de doutes. Nous voudrions savoir si nous ferions mieux de quitter ce forum, mais aussi si nous devions prévenir les membres ou faire autre chose afin de stopper ce forum. Nous sommes pris entre le fait d'éloigner les gens de lui si toutefois nos doutes sont fondés et entre le fait de bien se comporter et ne pas manquer à notre engagement. Barakallahu fikoum pour votre réponse. Wassalamu alaikum. Tfadal cher.
Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Quand je vais répondre à la dernière question, c'est-à-dire celle de la ruqya, si celui qui a posé la question veut enregistrer la réponse, il peut l'enregistrer. Comme ça, il peut dire aux gens, voilà sur quoi je me base. S'il veut, hein. D'ailleurs, je commence par Jumwa. Naam. Il n'est pas de la sunna qu'à chaque fois qu'on termine la Jumu'ah, on commence à faire des doigts. Ça, ce n'est pas de la sunna. Surtout, ça devient grave lorsque l'imam lève les mains sur le mimbar, hein, et que les gens aussi lèvent les mains pour faire des doigts. À part si c'est la doigt de la pluie. Hein. Et pour des doigts comme ça, normal en général, c'est pas permis. Et certains savants disent même que ceux qui ont levé les mains là, les gens, les prieurs, qu'ils auraient des péchés. Non. Comme l'a cité, attendez, je me rappelle qui c'est ce savant. L'autre fois, ça s'est passé comme ça. Je vous ai dit, attendez, je réfléchis un peu. Et je l'ai oublié. Mais le lendemain, je l'ai trouvé. Attendez, qui c'est? C'est la même chose. Khalid Namenou, le Mohem, c'est un savant qui a dit ça. Lorsqu'on s'assoit entre les deux, lorsqu'on fait la petite assise, l'imam fait la petite assise pour se relever, il n'y a rien de spécial à dire là-bas. Il n'y a rien de spécial à dire là-bas. Ni l'imam, ni les gens. Certains savants, comme Ibn Abdelbar, rahimahullah, le grand malikite, et certains d'autres aussi, ont dit que, yani, en ce moment-là, les doigts étaient exaucés. Et que c'était la sunna de faire les doigts. Mais il n'y a pas quelque chose d'officiel en ce sens. Il n'y a pas quelque chose d'officiel en ce sens. Donc le plus juste serait de quoi? Serait de se taire. Serait de se taire jusqu'à ce que l'imam se relève. Naam. Pour la deuxième question, qui a dit que ses parents voulaient qu'il se marie et lui qu'il ne voulait pas. Je dis, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, si le frère a les moyens, ou la sœur a dit, de se marier, qu'elle le fasse alors pour ses parents. Ça rentre dans l'obéissance des parents, que les parents veuillent voir son enfant, ou là sa grande fille, ou là leur grand-fils, se marier avant qu'il meure. Hein? Donc si la personne, si c'est un frère qui a les moyens, par exemple, et qui n'est pas malade, et qu'il sait, par exemple, qu'il peut se marier, dans ce cas, qu'il le fasse pour Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de l'obéissance aux parents. Et il aura, inshallah ta'ala, des hasanat. Il le fait pour eux, inshallah ta'ala. Quand je dis pour eux, ça veut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est dans le cas où il a des conditions. Dans le cas où il n'est pas malade. Dans le cas où il travaille. Dans le cas où il a où la loger. Dans le cas où il trouve celle qui elle aussi remplit les conditions. Et comme ça. Non, ce n'est pas, yani, ils vont lui ramener n'importe quelle femme, ils vont lui dire, si tu nous aimes, alors épouse celle-là. Non, ce n'est pas comme ça. Pour le teshehud, la troisième question, pour le teshehud. Non, pour le teshehud, si on le fait après le salam, on le fait après le salam, comment qu'on fait? Je donne un exemple. Je donne un exemple. Maintenant, je suis dans ma salat, dans la quatrième rak'at du asr, par exemple. J'ai terminé le teshehud et j'ai deux prosternations à faire. À la fin du teshehud, qu'est-ce que je dis? Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. صح? Ensuite, je me retourne à droite, je dis salam alaykoum wa rahmatullah, et par exemple à gauche salam alaykoum. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me prosterne. Subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la, subhan rabbil a'la. Ensuite, je m'assois. Rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. Ensuite, je me reprosterne. Sparbil a'la, sparbil a'la, deux ou trois fois. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je m'assois et je me retourne à droite, je dis salam alaykoum wa rahmatullah. Je me retourne à gauche, je dis salam alaykoum. Donc, vous avez remarqué que je ne refais pas le teshahud. Je refais seulement le teslim, les prosternations suivies de teslim. Tayyib, muslim, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Dis-moi si c'est clair. Alhamdoulilah. Tayyib. Reste pour la personne qui a dit que on lui avait dit que quand quelqu'un dit une grossièreté ou là un gros mot ou là qu'il insulte, qu'il devait refaire les ablutions et qu'il irait en enfer pendant 70 ans ou quelque chose comme ça. Je lui dis, Inch'Allah Ta'ala, que les deux choses ne sont pas vraies. Pour refaire les ablutions, ce n'est pas vrai. Par contre, s'il a insulté l'islam, ou bien Allah, ou bien son prophète, celui-là, il a apostasié. Il doit refaire le rousl et refaire l'attestation de l'islam. Mais, si on dit seulement une grossièreté, qu'est-ce qu'on fait? On ne refait pas les ablutions, et il n'y a pas quelque chose qui dit qu'il va aller 70 ans en enfer. Mais on doit faire tawbah et demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant de nous pardonner et de faire, si c'est possible, une bonne action. Car la bonne action efface la mauvaise. Ou alors faire une aumône ou une prière de la nuit. Ou bien jeûner un jour, fisabilah. C'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. On arrête, inshallah ta'ala, ici pour aujourd'hui. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. نتقي يوم السبت إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك مسلم tu m'as pas donné pour les mails là, le mail de la sœur, tu m'as pas donné son nom ou là je sais pas quoi, il est ouvert mon PV. Je dis aux autres salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, samedi inshallah.